Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Elias Lévy, je vais animer cette causerie avec Frédéric Martel qui est à Montréal, voyage éclair, pour nous présenter une enquête tout à fait passionnante, ce livre Mainstream. Tout d'abord permettez-moi de présenter notre invité. Frédéric Martel est écrivain et journaliste, docteur en sociologie, il a été attaché culturel aux États-Unis de 2001 à 2005. Il est l'auteur de 5 livres, dont Le Rose et le Noir, Les homosexuels en France depuis 1968, ouvrage publié au Seuil en 1996, traduit en 2000 en anglais chez Stanford University Press, un livre qui a été adapté pour la télévision pour France 3 en 2001. En 2006, il a publié, aux éditions La Découverte, un ouvrage sur le déclin du théâtre aux États-Unis, Theater, et un livre remarquable sur le système culturel américain, De la culture en Amérique. Ce livre est paru aux éditions Gallimard. Il a été encensé très élogieusement par la critique et traduit dans de nombreuses langues. Et il sera bientôt adapté en film par la chaîne de télévision Arte. Monsieur Martel vient de publier aux éditions Flammarion, Mainstream, enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde. Depuis octobre 2007, Frédéric Martel dirige la rédaction du site web nonfiction.fr. Et chercheur associé à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Il anime chaque dimanche sur la radio de France Culture une excellente émission culturelle intitulée Masse Critique, le magazine des industries créatives et des médias. Il est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et au programme de MBA de l'École des hautes études commerciales de Paris. Mainstream est un livre qui, depuis sa parution, fait beaucoup de bruit. Puisque même les Américains s'y intéressent, la semaine dernière, le prestigieux magazine Newsweek lui a consacré un article intéressant et assez élogieux intitulé « Winning the Soft Power War ». Mainstream est une vaste et passionnante enquête sur la bataille mondiale de la culture de masse, celle qui veut et qui peut séduire et toucher le plus grand nombre. Avatar, Lady Gaga, les studios de cinéma Disney ou Warner, Da Vinci Code, Michael Jackson ou le célèbre téléfilm Desperate Housewives, Bollywood en Inde, Al Jazeera au Moyen-Orient, autant de symboles, autant de vecteurs de cette culture populaire. Frédéric Martel a consacré 5 années à cette enquête au cours de laquelle il a réalisé 1250 interviews dans 30 pays pour démonter et comprendre les mécanismes de l'industrie culturelle mondiale. Mainstream est aussi une réflexion perspicace sur la géopolitique de la culture et des médias dans le monde. Frédéric Martel, la culture mainstream, vous expliquez dans le chapitre introductif de votre livre, vous dites que c'est l'inverse de la contre-culture, de la subculture, des niches, que pour beaucoup de monde, mainstream c'est aussi le contraire de l'art. Ma première question que je voudrais vous poser, est-ce que cette culture mainstream, qui est une culture de masse, et l'antithèse de la culture élitiste.
Je prends comme ça, ça va ? Bonjour à tous, merci d'être si nombreux ici. C'est toujours agréable quand on arrive de France. Et pour moi, je suis arrivé juste hier soir et je repars demain soir. Donc c'est assez rapide. On passe presque plus de temps dans l'avion qu'on en passe au Québec. Mais c'est pas pour moi le premier voyage, mais au moins le troisième ici. Je suis vraiment très très heureux d'être là. Alors d'abord, j'ai une petite excuse à faire, c'est une manière de répondre à votre question. J'aurais dû appeler ce livre « Courant dominant » pour être tout à fait en phase avec le Québec. En même temps, d'abord, en France, ça aurait pas été très fun. On n'aurait pas suscité beaucoup de débats avec un titre comme « Courant dominant ». Et puis au fond, ce livre, parlant de 30 pays, donc de la mondialisation de la culture, en même temps, il montre aussi l'importance, qu'on le veuille ou non, et d'ailleurs, je ne me prononce pas trop sur le fait de savoir si c'est bien ou pas bien. J'essaye de ne pas juger du tout ce qui se passe, ce qui n'est pas facile. Hein. Et ce qui est d'ailleurs aussi ce qu'on me reproche, parce que c'est des sujets qu'on a souvent beaucoup politisés. J'essaye donc pas de juger la culture, mais il se trouve que cette culture est quand même fortement, en tout cas pour une part, américaine. Et donc, le mot mainstream, le titre du livre, correspond aussi au sujet du livre. C'est d'ailleurs pas un concept. Il y a un ou deux intellos je ne vais pas être critique avec les intellos, puisqu'on m'accuse parfois de l'être un peu, mais qui m'ont reproché mon concept un peu flou, que j'utilisais à différentes sauces, que j'employais pour les telenovelas et puis après pour les films, etc. Ils ont tout à fait raison, c'est pas un concept, donc ne nous battons pas sur cette question-là, c'est un mot. Et un mot, par définition, il est polysémique, il a beaucoup de sens, et justement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est la capacité d'un mot comme ça à nous permettre de sortir d'un débat qui, en tout cas en France, est très franco-français, à savoir l'opposition entre l'art et le divertissement pour aller vite. Et j'ai voulu, avec le mot mainstream, l'avantage, c'est que je ne suis pas dans ce débat, je ne suis ni dans l'art, ni dans le divertissement, ni de savoir où on est, si c'est bien ou pas bien, je suis ailleurs. C'est une manière de répondre à votre question.
Mais on comprend très bien en lisant votre livre que mainstream pour vous n'est pas synonyme par exemple de Coca-Cola, parce que souvent on a, pendant des décennies, on a associé la culture de masse américaine à l'image de Coca-Cola qu'on retrouvait dans n'importe quel bout du monde, on retrouvait toujours les affiches. Là, on n'est pas du tout dans une industrie culturelle conventionnelle, parce qu'il s'agit d'une industrie culturelle de masse, mais non conventionnelle.
En fait, moi je parle d'industrie créative, c'est d'ailleurs déjà une forme d'évolution par rapport à l'expression classique et industrie culturelle qu'on connaît, qui était la formule d'Adorno. C'est pas lui qui l'avait inventée, mais elle a été beaucoup utilisée évidemment par l'école de Francfort, Benjamin, etc., dont d'ailleurs je regardais les livres tout à l'heure ici, de Benjamin. Je sais pas comment on dit Benjamin ici. Parfois on dit Benjamin en France, chacun sa manière de dire. En tout cas, l'industrie créative permet déjà de dépasser un peu ce débat-là. Parce que dans l'expression industrie créative, au fond, me semble-t-il, le mot important est créatif. Et ce ne sont pas des industries comme les autres. Si c'était des industries comme les autres, effectivement, elles produiraient du Coca-Cola. C'est-à-dire, au fond, le même produit à l'infini. Alors, je sais bien que vous allez me dire que c'est répétitif, que ça peut avoir des aspects de suprématie, domination, la culture américaine. Il n'empêche que même dans le cas de ce qu'on appelle une franchise, en français un sequel, c'est-à-dire Spider-Man 1, Spider-Man 2, 3, 4, ou les films de Toy Story 1, 2, 3, 4, etc., malgré tout, à chaque coup, ce n'est pas la même bouteille, la même boîte de Coca-Cola que vous refaites. C'est chaque fois un nouveau prototype. Bien sûr, il peut se rapprocher. Peut avoir des histoires communes, mais d'abord vous remarquerez qu'il n'y en a jamais beaucoup plus, à part James Bond, mais c'est autre chose, il n'y en a jamais beaucoup plus que 3, 4, 5, 6 maximum. Il y a Star Wars qui est un peu une exception, et ils sont allés rechercher dans le passé pour pouvoir remonter, mais c'est des produits qui sont certes commerciaux, ultra commerciaux, sont des produits qui veulent séduire et vendre à des millions de gens, donc ça c'est clair, mais en même temps, il se trouve qu'ils sont nécessairement constamment des œuvres de la création. Qu'on trouve ça bien, qu'on l'appelle art ou pas, peu importe, mais c'est en tout cas un processus de création et qui a comme particularité, en réalité, de toujours se renouveler. Et la particularité peut-être du mainstream, justement, et de cette culture de masse, cette culture populaire, ce qui n'est pas exactement la même chose, se renouvelle toujours par sa périphérie, c'est-à-dire par la contre-culture, par les universités, les liens entre les studios hollywoodiens et les universités sont très nombreux, par les nouvelles technologies, typiquement Avatar, par de l'innovation sur l'histoire, le scénario, la communauté gay, etc. Tout un tas de choses qui vont constamment agir dans ces produits. Alors qu'il reste des produits de masse, qu'il reste des produits très formatés, mais dans lesquels la créativité, et je ne dis pas ça d'ailleurs pour en faire l'apologie, c'est d'ailleurs assez classique, hein. Même Godard l'avait dit pour les films hollywoodiens des années 30, lorsque dans les années 50, enfin à la fin des années 50, dans les cahiers du cinéma, ils mènent une bagarre contre le cinéma français, au nom justement du cinéma américain qui défendent comme étant l'art. Et pourtant, c'est le cinéma des studios. Et ils considèrent que dans les studios hollywoodiens, il y a au fond de la création et de l'art, très 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 typiquement. Donc ce n'est pas très nouveau ce que je dis. Ce qui est nouveau, c'est que ce système a beaucoup beaucoup évolué, évidemment, depuis l'époque de l'âge d'or des studios hollywoodiens, qui étaient des studios, je dirais, pour le coup assez industriels. Et aujourd'hui, on est très loin de ça. On pourra y revenir, même si mon travail porte pas que sur Hollywood, ces deux chapitres du livre. Et après, je sors beaucoup, d'abord du cinéma, et puis je sors des États-Unis.
Ce qui est fascinant dans cette enquête, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la mondialisation est le moteur de cette culture mainstream, qui est une culture très américanisée, mais en même temps très mondialisée. Et pourtant, vous démontrez bien que ce mainstream ne menace pas les cultures nationales, puisqu'il y a des pays émergents dans lesquels vous avez enquêté, comme l'Inde, la Chine, il y a des pays aussi d'Amérique latine, où eux aussi ont forgé des mainstream et nationaux qui sont très très populaires et qui aujourd'hui concurrencent très rudement le mainstream américain.
Alors c'est exact, absolument vrai, c'est absolument ça. D'abord, la première conclusion, au fond, la conclusion optimiste ou positive de ce livre, et à nouveau je rappelle que je ne suis pas du tout idéologue, je fais de l'enquête de terrain, donc ma conclusion c'est ce que j'ai vu. Peut-être je me trompe, peut-être que j'ai pas vu ce qu'il fallait voir, j'en sais rien, mais c'est pas un postulat de départ, c'est pas une lecture, qu'elle soit néo-marxiste, qu'elle soit ultralibérale, qu'elle soit ce que vous voulez, c'est pas ça mon travail, c'est vraiment un travail de terrain. Donc moi ce que je constate dans les pays où je suis allé, les gens que j'ai interviewés, les lectures aussi innombrables, hein, la bibliographie fait plus de 200 pages sur le site web, je vous rassure, j'ai mis tout ça sur le site, les notes de bas de page sont aussi très nombreuses, etc. Il me semble que partout dans le monde, en réalité, les cultures nationales vivent bien. Et on en a une très bonne démonstration ici au Québec. La culture nationale, parfois régionale, non seulement survit, mais vit même bien sous la mondialisation. Et c'est vrai dans pratiquement tous les secteurs. Si on prend la musique, elle est très nationale presque partout, au moins à 50%. Si on prend l'édition, on est dans une librairie, l'édition est très nationale partout dans le monde. Si on regarde le cinéma, c'est moins vrai partout, mais il y a toujours entre 10 et 50%, disons, de cinéma national qui vit plus ou moins bien, mais qui vit. Pour ce qui concerne la télévision, elle est très nationale, à l'exception des séries, mais même les séries, ce sont souvent des formats rachetés, même s'il y a bien sûr Desperate Housewives partout, mais il y a beaucoup de formats nationaux. Et puis, le reste de la télévision, surtout l'information, est très nationale. La publicité, le marché publicitaire est très national. Donc, en réalité, à part les jeux vidéo qui sont très mondialisés, une part importante de la culture est nationale partout dans le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que face à ces cultures nationales qui vivent bien, typiquement en Amérique latine, typiquement en Europe, ici, vous avez une autre culture, pour le coup mondialisée et très américanisée, qui est devenue l'autre culture. Ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre. Vous avez au fond partout de la culture nationale et la culture américaine, pour aller vite. Et quand vous regardez le reste, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, il n'y a plus grand-chose qui passe entre le Brésil, l'Argentine, etc. Et quand ça passe, ça a souvent transité par Miami ou par Los Angeles, c'est-à-dire par des artistes qui sont devenus mondialisés, qu'ils s'appellent Shakira ou Juanes, et pour ne pas parler de Ricky Martin ou de Gloria Estefan. Si vous prenez l'Europe, même situation, au fond, le drame de l'Europe, c'est que nous avons 27 mainstream, très puissant. Partout en Europe, la culture nationale va bien, mais nous n'avons plus de culture européenne, si tant est que nous en ayons eu d'ailleurs, commune. Nous n'avons plus que ce qui fait culture commune, malheureusement, c'est la culture américaine.
Monsieur Martel, vous dites qu'en Europe, pour rester un moment sur le cas européen, vous dites qu'il n'y a pas véritablement de culture... parlons de mainstream. Vous abordez à la fin de votre livre la question du football, le soccer. Et je crois que là, on a un exemple vraiment de mainstream européen.
Qui n'est pas américain.
Pas du tout. Hein. Et que l'Europe contrôle entièrement et exporte dans les quatre coins de la planète. Parce que récemment, il y a deux semaines, ici à Montréal, on a rempli un stade avec 50 000 personnes parce qu'on a fait venir un joueur vedette de l'ancienne équipe du Brésil, Ronaldinho. Et vraiment, là, j'avais lu déjà votre livre. Là, je me suis dit, vraiment, ça, c'est du mainstream. C'est la culture de masse. Pourtant, quel regard portez-vous sur la question du soccer, puisque nous sommes en pleine Coupe du monde de football?
Alors d'abord, je vous rassure, enfin, ou je vous inquiète, je n'ai pas fait un livre sur le football, donc que les choses soient claires, oui. Il y a une phrase ou deux, voilà, mais c'est pas... Non, parce que le football est intéressant, effectivement, c'est une exception d'un produit d'entertainment de masse, finalement, qui n'est pas du tout américain. Bon, moi, je pense que c'est de l'ordre de ce sujet-là, enfin, je ne l'ai pas traité parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais on est effectivement dans une bataille mondiale pour le football qui se trouve être aussi une bataille marchande, commerciale, d'influence, etc. Et qu'on voit, par exemple, lorsque Al Jazeera rachète les 10 chaînes sportive de ART, un groupe saoudien, et va donc avoir aujourd'hui un pouvoir très grand dans l'information dans le monde arabe et l'Afrique du Nord, et dans l'entertainment en même temps. Chose qui est intéressante, parce qu'on avait vu beaucoup Al Jazeera comme une chaîne de news politisée. En réalité, l'entertainment y a une place majeure. On peut prendre d'autres exemples. C'est par exemple la bataille sur la première ligue anglaise, qui est intéressante parce qu'elle est assez... C'est une bonne jauge du marché, globalement. C'est parmi les droits les plus chers sportifs en télévision. Et donc, c'est très équitable. Partout dans le monde, il y a des droits très compliqués à négocier. Si on regarde ça, par exemple, vous avez aujourd'hui une bataille en Afrique où l'Afrique a été divisée par trois. Vous avez un géant qui s'appelle iTV qui a racheté les droits pour l'Afrique un peu centrale et qui est un groupe du Nigeria. Vous avez les Sud-Africains, notamment de Napster et de MultiChoice, qui ont racheté ces droits-là pour l'Afrique du Sud et l'Afrique anglophone, c'est-à-dire notamment l'Afrique de l'Est et du Sud. Et puis, vous avez un groupe qui s'appelle Abu Dhabi TV. Donc, on retrouve le Golfe et les, donc le Golfe qui a racheté Abu Dhabi TV essentiellement les droits pour le Moyen-Orient et pour le Maghreb. Donc, en fond, on a une Afrique divisée en trois, le Golfe, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Au passage, on remarquera qu'il n'y a plus tellement d'Anglais, plus tellement de Français qui tiennent, et alors qu'ils l'ont eu à certaines époques, les droits télévisés pour la zone africaine, ce qui, à mon avis, est un signe aussi de ces évolutions très significatives que j'ai essayé d'analyser, à savoir d'abord l'émergence des pays émergents dans ces secteurs. Je ne suis pas le premier à avoir parlé des pays émergents, beaucoup l'ont fait avant moi. Je ne suis pas le premier à avoir parler de mondialisation, évidemment, il y a plus de 20 ans qu'on en parle, mais on n'avait pas assez, me semble-t-il, analysé le fait que les pays émergents émergeaient aussi avec leur culture et leurs médias. Et ça, c'est le sujet principal, disons, c'est la deuxième partie, le deuxième gros sujet de ce livre. Donc, pour répondre un peu longuement à votre question, oui, c'est central dans cette bataille.
Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que tout d'abord, on sent qu'il est... qu'il est dépolitisé, entre guillemets. Mais est-ce que une des conclusions de cette enquête, c'est que finalement la mondialisation n'est pas en train de mettre fin à l'exception culturelle nationale, comme vous venez de l'expliquer. Et je suppose que c'est une conclusion qui... Excusez-moi, j'ai oublié de...
C'est votre maman.
Non, c'était ma belle-maman.
Pour dire que la soupe est prête.
Excusez-moi. Excusez-moi. Cette conclusion, probablement, elle a dû ulcérer les altermondialistes invétérés. Est-ce qu'ils vous ont fait grief de...
Quoi ? Quelle conclusion ?
C'est-à-dire qu'en lisant ce livre, on se rend compte, on nous rabâche les oreilles avec la mondialisation.
Ah oui.
On nous dit que la mondialisation est en train de mettre fin à l'exception culturelle, aux exceptions culturelles nationales. Et vous démontrez tout simplement le contraire, comme vous venez de
moi, je démontre... En fait, je démontre rien. Ce que j'essaye de faire, c'est de... D'abord, ce que je constate, c'est que les choses sont très complexes et que dans chaque zone, en fonction d'ailleurs des secteurs, c'est pas la même chose qui se passe dans le cinéma, dans la télévision, dans le jeu vidéo, en fonction des continents, mais même au sein des continents, il se passe des choses très paradoxales. Par exemple, pour prendre un seul exemple, les Américains qui ont le souci d'installer et d'implanter leurs films hollywoodiens partout, hein, sans exception, là pour ça, ils sont au moins leur projet est assez clair. Ils le font avec la même intensité en Chine, en Inde et au Japon. En Chine, ils ont face à eux une censure terrible de tous les niveaux, hein, une censure politique, une censure sur le sexe de type un peu petit bourgeois ou je dirais néo-victorien, une censure sur les nombres de films qu'ils peuvent importer, une censure sur les multiplexes où ils vont pouvoir sortir leurs films, et enfin une censure financière qui limite de toute façon, même s'il y a un gros succès comme ça a été le cas avec Avatar, ça limite les recettes qu'ils peuvent en tirer puisqu'elles sont plafonnées à 15%. Vous voyez, c'est vraiment la censure totale. Je passe sur le fait qu'on leur a volé leur multiplex, sur le fait qu'on censure la plupart de leurs films, etc. Bref, ils font à peu près 10 films, ils arrivent à sortir 10 films par an, un petit peu plus aujourd'hui, en Chine chaque année. Évidemment, que des blockbusters, ils s'entendent entre eux, les studios s'entendent pour sortir que les plus gros blockbusters. Avec ça, en dépit de ce système d'une censure incroyable de notre âge, ils font 50% du box-office en Chine. Face à ça, sans aucune censure, sans aucun quota, ni au Japon, ni en Inde, les Américains ne dépassent pas 10% du box-office. Donc, petit 1, ça montre que la censure et les quotas, ça ne marche pas vraiment. Petit 2, pourquoi les Américains n'arrivent pas à pénétrer en Inde et au Japon, alors qu'ils pénètrent fortement la Chine, fortement le Québec et le Canada, fortement la France. La France, depuis le début de l'année, le box-office, c'est 60% de films américains, blockbusters quasiment uniquement, 37% de films français, plutôt des blockbusters aussi, et 5-6% de films autres, d'art ou internationaux. Au passage, exactement l'inverse du palmarès du Festival de Cannes, qui avait promu un Thaïlandais, un Sud-Coréen, un Iranien, un Mexicain, donc essentiellement, voilà, les 6% après qu'on retrouve dans le box-office national, quelques Français et très peu d'Américains, même si Tim Burton dirigeait le jury. Alors pourquoi est-ce qu'en Inde et au Japon, les Américains ne pénètrent pas ? Ben parce que dans les deux cas, ils trouvent une culture très forte, nationale, très, très populaire, et très ethnocentré. Bollywood, dans le cas de l'Inde, un cinéma, des jeux vidéo, des mangas, tout un tas d'autres choses, dans le cas japonais. Voilà, donc la réponse au fond la plus simple, et à nouveau c'est pas de la politique, c'est pas de l'idéologie, c'est de dire, bah, on constate quand même que dans les pays qui ont une forte production et qui arrivent à produire des films, les Américains n'arrivent pas à pénétrer. La Chine, le problème est très simple, c'est que cette censure a pour effet, parce qu'il y a une censure évidemment nationale aussi, à l'égard des Chinois, les plupart des cinéastes un peu talentueux partent, typiquement Ang Lee, d'autres. Les autres font plutôt de la soupe, des blockbusters en cap et épée, enfin on n'appelle pas ça comme ça, mais enfin en costume à la chinoise. Et bah, les jeunes Chinois, ils s'en foutent, quoi. Donc ils vont ou au marché noir voir des films américains, ou quand ils peuvent, quand c'est pas interdit, puisque Avatar est sorti, ça a tellement bien marché que les Chinois l'ont censuré, pour éviter que le box-office américain dépasse le box-office chinois à la fin de l'année. Et ils ont sorti à la place un blockbuster chinois que pas grand monde, enfin, que des gens vont voir, hein, parce que ça marche bien malgré tout. Mais c'est un système sous perfusion qui, de toute façon, ne pourra pas perdurer à l'âge d'Internet et à l'âge, évidemment, de la diffusion massive des produits de toutes sortes.
On comprend, en lisant votre livre, que ce qui fait la force de la culture mainstream américaine, c'est d'ailleurs beaucoup de pays veulent s'inspirer de ce modèle-là, c'est sa capacité d'innovation, de renouvellement, d'expérimentation et de changement. Sans cette innovation et ce renouvellement, il n'y aurait pas de culture mainstream. Est-ce que c'est l'élément moteur qui dynamise la culture mainstream ?
Ah, il y a beaucoup de choses. D'abord, ce que j'ai constaté, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, j'ai été dans 120 villes aux États-Unis, j'ai 35 États, donc c'est un pays où j'ai beaucoup circulé, j'ai fait beaucoup d'interviews. Probablement.
Vous avez fait un livre sur la culture.
J'ai fait un autre livre déjà. Donc je m'étais plus intéressé pour le précédent livre vraiment, puis c'était ma thèse, c'était un livre beaucoup plus gros, c'était un livre moins grand public qui concernait vraiment le système d'art, le financement public, qu'on connaît mal d'ailleurs, qui existe en fait beaucoup. Hein. C'est un système sous la forme de défiscalisation que vous connaissez, puisqu'il existe aussi sous certaines formes au Canada. Je dis au Canada spécifiquement parce que c'est un système très canadien. Je crois, plus que québécois, qui est, au fond se rapproche plus du modèle français de subvention ou d'aide en tout cas à la culture. Et donc, y a beaucoup de choses, si vous voulez. Je dirais qu'il y a d'abord et avant tout, parce qu'il ne faut pas le négliger, et il est loin de moi l'idée de marginaliser ce point-là, il y a d'abord un système redoutablement efficace sur le plan économique, marketing, diffusion et commercial de distribution. C'est une machine de guerre installée sur 5 continents qui est d'une puissance inouïe. Mais on a tendance à ne voir que ça et à penser qu'il suffirait que nous on ait ça aussi pour être aussi puissant. Et c'est là où je dis attention, il y a beaucoup d'autres raisons au succès de ce cinéma, mais c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour l'édition, les blockbusters, etc. Il y a un système d'une complexité, d'un professionnalisme, à nouveau qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui est époustouflant, qui va passer des agences de talent, le rapport, le syndicat. C'est un système, en tout cas pour Hollywood et Broadway, qui sont très syndiqués, très fortement syndiqués. Donc ça casse un peu quand même le système purement commercial qu'on voit de l'extérieur. C'est un système qui s'appuie, je l'ai dit, sur des universités qui vont jouer le rôle de recherche et de développement, d'expérimentation, de prise de risque. Quand vous visitez USC, University of Southern California, UCLA, CalArts, NYU, la Tisch School, et on pourrait prendre plein d'autres exemples comme ça, même au Texas, même au Chicago, qui fait l'objet d'un chapitre de ce livre, vous voyez en fait la richesse de ces universités. La richesse aussi de leur rapport à Hollywood, mais aussi à Broadway, mais aussi à l'industrie du disque ou à l'édition. Et on pourrait ajouter beaucoup de choses. Je pense
est-ce que ces industries ont été durement touchées par la dernière crise économique ?
Oui, bien sûr qu'elles ont été durement touchées. De toute façon, c'est un système très darwinien. Ça veut dire que, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est un système où seul le plus fort survit. Quelqu'un m'a fait un reproche, une critique qui dit « Oui, je me trompe puisque dans ce livre, je parle des specialized units, donc c'est des unités spécialisées entre guillemets indépendantes, évidemment 100% appartenant aux studios, au sein des studios, parce qu'elles ont fermé. » Effectivement, le type avait raison, il y en avait trois qui avaient fermé. Ce qu'il oublie, c'est qu'il y en a une douzaine qui vivent très très bien et que moi j'en ai identifié 150 autres d'extrêmement puissantes et qui sont ce qu'on appelle des maisons indépendantes rattachées au studio avec ce qu'on appelle les first look. Donc le type avait raison, mais en fait en réalité il avait totalement tort parce qu'il n'avait vu qu'il y en avait trois qui avaient fermé. Il oubliait qu'effectivement il y en a qui ferment, comme il y a des musées qui ferment aux États-Unis, mais il y a aussi tous les jours de nouveaux musées qui s'ouvrent parce que c'est un système en constant renouvellement, ce qui pour un Français est absolument inimaginable parce qu'on n'imagine pas que musée pourrait fermer en France. L'État laisserait jamais faire ça, mais c'est aussi le problème, c'est que les musées aussi sont plus pauvres chaque jour parce qu'on en crée nouveau, mais on n'augmente pas leur budget, etc. Et à nouveau, je ne veux pas défendre du tout. Je ne suis pas du tout un défenseur du système américain. Mon objectif est essentiellement de l'analyser pour rendre compte de comment ça marche. Après, si vous l'aimez, vous dites c'est formidable. Si vous n'aimez pas, vous dites on va lutter contre ça grâce au livre. Mais l'objectif est juste ça. Donc voilà. Alors, à nouveau, c'est un système d'une complexité inouïe dans lequel il faudrait voir aussi le rôle des sous-cultures, des... Moi, je pense qu'une des clés, alors là, je ne vais pas vous faire plaisir, mais je pense qu'une des facteurs qu'en tout cas, nous, Français, on n'a pas vu dans le système américain, c'était la puissance de la diversité culturelle américaine sur le sol américain. Bien sûr que les Américains détruisent les cultures ou tentent de détruire les cultures en Amérique latine, ici et dans beaucoup d'autres endroits. À l'international, ils ont cette logique-là. Mais en interne, ils valorisent beaucoup, en réalité, la diversité interne. C'est-à-dire, au fond, ce que moi j'appelais une diversité standardisée, avec une formule entre guillemets, diversité standardisée, mais c'est-à-dire une diversité essentiellement ethnocentrique, basée sur le fait qu'ils ont 45 millions de latinos, 38 millions de noirs, 14 millions d'asiatiques. Et ça, à travers la décision Bakke, B-A-K-K-E de la Cour suprême de 1978, à travers les lois de Jimmy Carter en 1980 sur la diversité culturelle, en réalité, c'est devenu en interne la matrice, une des matrices de la société américaine.
Une culture très métissée.
Oui, très métissée. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une des raisons du succès aussi d'Hollywood, de Broadway et de la musique américaine. On le voit, Lady Gaga, elle apparaît parce qu'elle est aussi née dans ce quartier du Lower East Side à Manhattan, où elle est à la fois avec la communauté juive, la communauté noire, la communauté gay, et c'est ça qui la porte. Bien sûr qu'il y a une machine de guerre marketing derrière, après. Mais en amont, il y a tout ça. Elle a étudié à la Tisch School, c'est-à-dire l'université privée de New York University, l'école de d'art. Et il y a tout ça dans ce genre de phénomène. Et vous pourriez le retrouver dans une... Enfin, Hollywood a été créé essentiellement par des juifs immigrés qui fuyaient les majors, en l'occurrence Edison, et étaient des indépendants. Et constamment, les indépendants deviennent les majors. Si vous regardez Disney aujourd'hui, le pouvoir, qui a le pouvoir à Disney ? C'est Pixar. C'était pour une partie un peu les gens de Miramax, même si c'est en son parti. Donc, en fait, le système utilise toujours les indépendants, s'en nourrit, progresse avec eux, etc. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, le système est donc beaucoup plus compliqué à affronter qu'on ne croit lorsque on le résume à juste du gros marketing et des gros sous. Et c'est bien ce que viennent de découvrir peu à peu les Chinois, qui ont le marketing et les gros sous, mais n'arrivent pas à produire un seul blockbuster mondial, parce qu'il leur manque la créativité, la liberté d'expression, le dynamisme des communautés. C'est pas qu'il n'y a pas de communauté en Chine, mais c'est qu'elles ne sont pas valorisées, elles sont totalement cadenassées, comme en France d'ailleurs, c'est un débat sur lequel on pourra revenir. Et donc voilà, donc moi je constate ça et j'essaye de comprendre pourquoi il y a des villes dans le monde qui sont des capitales de l'entertainment, de la production de culture, de divertissement, d'information et de mainstream, et pourquoi il y a d'autres capitales qui ne le sont pas. Pourquoi ça marche à Beyrouth et pas à Riyad? Pourquoi ça marche à Hong Kong et pas à Pékin? Pourquoi ça marche à Miami, à Los Angeles et pas à Caracas, etc., etc.
Donc la diversité culturelle est...
elle est très, très centrale, je pense. Et dans toutes les villes que je viens de citer, Hong Kong, c'est une ville de diversité culturelle pour l'Asie. Miami, n'en parlons pas. C'est vraiment la capitale de l'Amérique latine, sans aucune hésitation. Beyrouth, c'est une capitale de la diversité pour les pays arabes, sans aucune hésitation. Comme le Caire un peu, et c'est d'ailleurs les deux capitales du monde arabe pour ça. Singapour, c'est une Asie en miniature aussi, etc., etc. Et je crois qu'on a sous-estimé ce type de facteur. En France, nous, on passe notre temps à dire on incarne la diversité culturelle, les États-Unis incarnent l'abrutissement, vous voyez, le contraire. En fait, c'est vrai quand on est dans une dimension internationale. Dans les enceintes internationales, à l'OMC, à l'UNESCO, il est vrai que les Américains détruisent la diversité culturelle. Alors que nous, avec vous, hein, et les Québécois, les Belges, on défend beaucoup la diversité culturelle. Reste que sur notre propre sol, à l'inverse des États-Unis, dont j'ai dit combien ils valorisaient cette diversité, les Français ne la valorisent pas du tout. La France, qu'est-ce qu'elle veut de ces minorités? Elle veut qu'ils deviennent Français. Elle n'accepte pas du tout les Français issus d'immigration. Nicolas Sarkozy est passé d'un discours de la diversité culturelle avant son élection au discours de l'identité nationale qui vient détruire et nier les cultures locales, nier les cultures folkloriques, nier les cultures des Français issus d'immigration. Il est contre l'idée qu'on puisse... Et il n'est pas tout seul, hein, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut. Je pourrais citer tous mes ennemis du moment, tous ceux qui m'attaquent, Marc Fumaroli qui m'a attaqué encore dans une page du Figaro la semaine dernière. Je dis ça, c'est pas très méchant, on s'aime bien. D'ailleurs, il a dit que mon livre était formidable puisque j'avais interviewé des gens formidables, enfin, j'avais interviewé plein de gens dans plein de pays. Il trouvait ça extraordinaire, mais il n'aurait pas aimé les rencontrer, ces gens. Tellement qu'il déteste la culture dont je parle. Bon, ben voilà, il en a le droit. Mais simplement, si vous voulez, je pense que ce n'est pas comme ça que la France va exister dans le monde. Si elle se recroqueville sur une France rikiki, rabougrie, sgrognonieuse, en oubliant une France qui devrait s'ouvrir, accueillir ses minorités, valoriser... Combien il y a de Français, combien il y a de théâtres dirigés par un beurre, un Français issu d'immigration en France? Combien il y a de théâtres beurre? Zéro, même l'expression nous fait rire. Vous en avez plus de 800 aux États-Unis de théâtre noir. Combien il y a d'endroits, de lycées où on peut apprendre en langue, en première langue, l'arabe? En France, on ne veut pas que les gens apprennent l'arabe. Pourtant, ils sont arabes pour une partie d'entre eux et on pourrait les valoriser. Aux États-Unis, tout le monde peut apprendre l'espagnol ou le chinois dans une école quand on est dans des quartiers chinois, etc. Bon, voilà. Alors après, je ne veux pas faire l'apologie des États-Unis du tout parce qu'il y a aussi plein de problèmes là-bas. Mais en tout cas, il y a aussi une hypocrisie française dans la défense d'une diversité culturelle, je dirais, incantatoire et idéologique à l'international, mais qui n'est pas valorisée sur le territoire national.
Frédéric Martel, est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à caricaturer la culture mainstream américaine? Parce que vous rappelez dans votre livre, dans certains passages, qu'il y a aussi une culture mainstream américaine assez élitiste, qu'on retrouve dans des festivals, que ce soit d'art, de musique. Je veux dire, l'Amérique ne produit pas simplement que des grands blockbusters. C'est aussi une machine à produire une culture qui s'adresse entre guillemets à des cercles plus élitistes.
Bah, en fait, c'est là on n'est plus dans le mainstream. C'est-à-dire, le mainstream pour moi c'est la culture, disons, de masse dominante. Bon, et donc en même temps qu'elle produit du mainstream et combien, et elle le sait le faire, elle produit aussi une culture sur toutes les échelles à la fois. Et ça aussi, je pense qu'on ne l'avait pas assez vu. C'est pour ça que mon livre, il trouble beaucoup en France. Enfin, il énerve aussi, il y a certains. C'est que, ouvrez Les Inrecuptibles, ouvrez Télérama. On vous parle une fois sur trois de culture américaine. Ce n'est pas des blockbusters. On vous parle de Tony Kushner, on vous parle de Merce Cunningham, on vous parle de Martha Graham, on vous parle de Bill T. Jones, on vous parle de Philip Roth, on vous parle de Paul Auster, etc. L'Amérique est capable à la fois d'arriver dans un pays comme la France, et je pense que c'est vrai aussi au Québec, hein, même si je connais très peu le Québec, donc je ne veux pas m'aventurer sur des conclusions hâtives, mais elle pénètre la France à travers le mainstream, mais aussi à travers la culture élitiste, hein, au festival de danse de Montpellier, au festival d'automne, au festival d'Avignon, où le Wooster Group est invité, au théâtre de la ville, où les troupes de danse dont j'ai parlé, Martha Graham, Merce Cunningham, Trisha Brown, Bill T. Jones, sont invités constamment. Elle pénètre aussi à travers les cultures communautaires, ce qui fait que directement, elle vient se brancher, si on peut dire, sur les Français issus de l'immigration, par exemple, qui vont écouter du rap américain tout de suite, même quand ils sont dans des quartiers très isolés. Donc, ils connectent tout de suite avec les États-Unis, indépendamment d'ailleurs de la culture française, sans que ça se voit. Le quartier gay, par exemple, parisien, la culture gay à Paris est totalement américanisée. C'est une culture très américanisée, beaucoup plus que nationale, parce que, d'ailleurs, la France a souvent rejeté jusqu'au Pax, etc. C'est gay, donc, au fond, c'est normal qu'ils s'identifient avec l'Amérique qui est pour eux un symbole de libération. Ce qu'on oublie ici, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs pour moi, c'est que l'Amérique apparaît comme un pôle de libération pour les gays du monde entier, pour les féministes souvent du monde entier, pour les noirs du monde entier, et du coup un certain nombre d'arabes parfois, alors qu'elle apparaît à juste titre comme opprimante dans un pays comme ici. Donc c'est ça tout le paradoxe de cette culture très, très, très multiforme. Mais je terminerai en disant qu'il y a aussi toutes les cultures numériques, hein, à travers le golf, à travers Google, à travers Twitter, Facebook, Yahoo, etc. C'est souvent quand même des cultures très américanisées qui circulent. Je ne parle même pas de l'iPod, de l'iPad et de tout le reste. Et puis, elle existe aussi à travers l'avant-garde la plus innovante et la critique du système. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, en France, critiquer les États-Unis, critiquer la domination, la suprématie américaine, vous utilisez généralement des textes du monde diplomatique qui sont en fait des traductions d'articles du New Yorker, de The Nation, qui sont très souvent des articles de Noam Chomsky, de Michael Moore ou de tous les autres. Ça veut dire que là, vous avez vraiment un système un impérialisme total. C'est bien sûr la masse, mais aussi la contre-culture, les cultures élitistes, les cultures technologiques, les cultures communautaires et la critique de cette domination. C'est ça vraiment l'impérialisme américain. Pas simplement les masses, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et c'est ça un peu, je dirais, le sujet de mes deux derniers livres.
Pour rester, peut-être, vous avez venu d'évoquer la question du numérique, qui est très importante. Parce qu'on voit que le web joue un rôle capital dans cette diffusion de la culture mainstream. Pourtant, on a l'impression que dans ces pays émergents que vous avez visités, que ce soit le Brésil, l'Inde, certaines contrées d'Amérique latine, on voit le web, on voit l'Internet comme une grande opportunité, comme quelque chose qui est porteur de grands projets prometteurs. Alors qu'en Occident, notamment, que ce soit particulièrement en Europe ou aux États-Unis, on perçoit parfois l'Internet, le web, comme quelque chose d'indispensable, mais d'assez menaçant.
Mais écoutez, ce qui se passe est assez normal. Nous avions une production culturelle, que ce soit des CD, des DVD, que ce soit des films dans le cinéma, la télévision, très nombreux et qui rapportaient beaucoup d'argent. On peut même dire que depuis des années, l'industrie du disque volait les gens, hein, avec des albums qu'elle nous faisait payer très cher, même quand on n'avait besoin que d'une seule chanson. C'est une parenthèse, mais quand après on accuse les jeunes Français qui téléchargent illégalement de la musique de voler l'industrie du disque, parfois c'est juste un juste retour des choses. Mais passons sur ça. Alors, donc nous, évidemment, le téléchargement illégal et tout ce qui est le basculement numérique nous pose énormément de problèmes, puisque on a à négocier une période de transition très difficile entre l'analogique et le numérique, entre les produits culturels qui étaient la dominante et ce qui sont aujourd'hui plutôt des services culturels, des flux, des formats, puisqu'il y a de moins en moins de produits, de plus en plus de services, hein, puisque tout ça transite par Internet, donc on n'a plus de matériel, tout est immatériel. Alors que dans les pays émergents, le marché précédent n'existait quasiment pas. Le CD en Chine, 98% de piratage. Le DVD dans les pays arabes, 98% de piratage. Donc, si vous voulez, le manque à gagner dans ces pays n'existe pas. Donc, ils n'ont pas à négocier toute cette période de transition. Et il se trouve qu'en plus, ils émergent, les pays émergents émergent avec leur culture et leurs médias au moment du basculement numérique. Alors du coup, c'est une double émergence qui leur permet de gagner en rapidité. Et quand vous rencontrez, comme je l'ai fait à Riyad, des groupes comme Rotana, des groupes comme ART, comme NBC, lorsque vous rencontrez à Mumbai, donc à Bombay en Inde, des groupes comme Reliance, vous apercevez que ces groupes sont totalement numérisés, totalement ont basculé déjà dans le numérique parce qu'ils émergent à ce moment-là. Donc, vous avez face à vous de jeunes patrons qui ont souvent 35 ans, des milliers de salariés, et qui, alors que leurs confrères européens ont souvent 65 ans et sont plutôt un peu inquiets et voient Internet comme une menace, eux ouvrent de grands bras et des sourires émerveillés en vous disant que Internet, c'est un immense territoire d'opportunités. Et ils se mettent à travailler comme des fous pour essayer d'exister et de créer des modèles économiques à un marché. En Chine, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un vieil apparatchik du Parti communiste et de l'armée du peuple. Mais on retrouve ce genre de dichotomie. Voilà, alors moi je constate ça, c'est pas non plus idéologique, c'est simplement quand vous rencontrez ces gens-là, vous vous dites, eh bien eux ils y croient, et quand vous êtes à Paris, je pourrais vous citer des exemples, mais ça serait méchant, ils sont parfois plutôt 80 ans d'ailleurs, les patrons des grands groupes, eh bien vous avez des gens inquiets, apeurés, menacés, qui vous attrapent par le bras et vous disent, vous savez, la génération MP3 c'est pas la mienne. Ouais, c'est pas la mienne, mais c'est celle simplement de millions de jeunes, y compris en France. Donc il va bien falloir qu'ils comprennent tout ce que ça va avoir de conséquences pour eux. Et donc tout ça m'inquiète un peu, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que nous sommes face à des pays qui non seulement ont l'argent, ils ont le nombre, hein, 1,3 milliard de Chinois, 1,2 million d'Indiens, plusieurs centaines de millions d'Indonésiens, pays dont on parle jamais, mais qui est un acteur majeur, non seulement en Asie, mais aussi par rapport au monde arabe, puisque, comme vous le savez, c'est le premier pays musulman au monde. Al Jazeera a des bureaux en Indonésie. Hein. Je ne crois pas que CNN, ni même France 24, n'en ait. C'est d'ailleurs marrant, quand je suis à Jakarta, je veux voir absolument la responsable du bureau d'Al Jazeera. Donc c'est toujours très compliqué. J'ai suivi Al Jazeera dans une douzaine de pays. Et je tombe sur une fille qui me reçoit, adorable, qui vient même me voir à mon hôtel, très, très belle, très blonde, et qui est hollandaise. Et elle travaille pour Al Jazeera. Donc c'est assez formidable. Et Al Jazeera, c'est toujours ça. Il y a plein de surprises. Vous avez de tout. Vous avez toutes les religions. Vous avez tous les pays. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez des Saoudiens voilés, des Saoudiennes voilées, puis des Saoudiennes non voilées. Vous avez des Iraniens. Vous avez des... etc. Et c'est d'ailleurs le chapitre que j'ai fait sur Al Jazeera, un chapitre qui a suscité beaucoup de débats, parce qu'il montre des visages très multiples d'Al Jazeera qu'on n'avait pas trop en France. En France, on avait un peu, comme sans doute vous, image américaine, c'est-à-dire George Bush qui considère que c'est l'axe du mal à Al Jazeera. C'est d'ailleurs, ils ont tenté de les bombarder, comme vous le savez sans doute.
Est-ce qu'Al Jazeera est diffusé en France maintenant?
Bien sûr, oui.
C'est diffusé au Canada depuis quelques
mois.
Oui,
non, Al Jazeera existe en France, à la fois le Al Jazeera. Alors, vous savez, Al Jazeera, c'est plusieurs choses. C'est Al Jazeera en arabe, en origine, qui est une chaîne plutôt... Aujourd'hui, je dis ça alors que je suis très prudent dans le livre et je montre les tensions, les contradictions, mais plutôt quand même pas très éloigné, enfin, très mainstream dans mon rame, mais plutôt quand même proche du Hamas, globalement, en tout cas la direction actuelle. Ensuite, vous avez une chaîne en anglais, qui a recruté des gens beaucoup de la BBC, comme d'ailleurs l'Al Jazeera en arabe, puisque l'Al Jazeera est beaucoup né en fait à Londres, et aussi des gens de CNN, qui est une chaîne plus neutre, qui donne une image plus internationale de l'Al Jazeera. Vous avez Al Jazeera Children, qui n'appartient pas au même groupe, mais qui appartient quand même à l'Émirat du Qatar. Et puis donc les 10 chaînes sportives qui constituent Al Jazeera Sports, AJS. Le point important est que vous avez au fond une chaîne. Pour moi, ma théorie, enfin, je ne sais pas si on peut parler de tellement de choses, mais je pense que Bush avait profondément tort sur Al Jazeera. Je dis ça pas du tout parce que c'est Bush et pas du tout parce que c'est Al Jazeera. Moi, je ne savais pas, donc je suis allé enquêter. J'ai lu 3-4 livres, j'ai rencontré j'ai visité une douzaine de bureaux d'Al Jazeera à travers le monde, y compris à Caracas, y compris en Indonésie, y compris bien sûr à Londres, à Paris, en Belgique. Et j'ai eu le sentiment, à nouveau peut-être je me trompe, mais que c'était une chaîne qui était très contradictoire. C'est-à-dire que vous y avez tout, vous avez effectivement le Hamas, sans aucun doute, l'actuel directeur, Kanfar est probablement proche, au moins, je ne dis pas qu'il est financé, infiltré, etc.
Mais
en tout cas, il est de sensibilité pour des raisons plus qui s'expliquent, hein, comme d'ailleurs pour beaucoup de Palestiniens ou autres, plutôt proche du Hamas. Mais vous avez aussi des vrais laïcs chez Al Jazeera. Vous avez aussi des sunnites, vous avez des chiites, vous avez des Tunisiens, des Algériens avec des rapports compliqués. Vous avez aussi des gens qui ont vécu longtemps en Angleterre, donc à la BBC, et qui sont quand même très, très, très occidentalisés, européanisés. Et au final, Al Jazeera surtout colle aux attentes de la rue arabe. Et la rue arabe, elle veut plein de choses. Donc elle veut à la fois des talk-shows islamistes, elle veut aussi islamiques, elle veut aussi des talk-shows laïques, très critiques à l'égard de l'islam, elle veut aussi des talk-shows qui lui parlent de la fellation. Alors, vous imaginez que ça donne sur cette chaîne.
Il n'y a pas de censure.
Non, en fait, il y a tout et son contraire. C'est vraiment pas une chaîne censurée, pas du tout, comme le sont les chaînes saoudiennes ou comme le sont les chaînes iraniennes. C'est pas du tout ça. Et au fond, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que pour une part, je dis avec prudence, pour une part, c'est une chaîne où des journalistes veulent faire leur travail normalement. Évidemment, ils sont pro-arabes. Mais enfin, est-ce que CNN ne fait pas de l'information tout en étant pro-américaine? CNN est clairement, moi j'aime beaucoup CNN, mais c'est clairement une chaîne pro-américaine, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc je ne vois pas pourquoi on reprocherait Al Jazeera d'être une chaîne pro-arabe. Alors évidemment, si après elle pose des bombes, ça serait un autre problème. Mais à ma connaissance, Al Jazeera ne pose pas des bombes. On n'a pas vu un seul journaliste d'Al Jazeera terroriste ou devenu terroriste. Ce n'est pas du tout ça le débat.
Mais Al Jazeera, pour rester 2 secondes sur Al Jazeera, qui est quand même le produit mainstream par excellence dans le monde arabo-musulman. Est-ce que vous avez eu l'impression, au cours de l'enquête que vous avez menée, des responsables d'Al Jazeera que vous avez rencontrés dans plusieurs pays, est-ce que vous avez l'impression qu'une machine d'information si puissante, avec une telle portée comme Al Jazeera, est-ce qu'elle peut contribuer sensiblement à faire avancer la démocratie dans le monde arabe?
Moi, c'est mon hypothèse. J'irai pas jusqu'à dire que ça fait avancer la démocratie dans le monde arabe. En plus, on peut pas reprocher à une chaîne. Moi, je pense qu'elle a changé complètement, et ça, je crois pas de doute là-dessus. Elle a changé l'ensemble des médias du monde arabe. Mmh. Aujourd'hui, même au Caire, qui est pas le pays le moins censuré du monde, même en Syrie, les médias ne peuvent plus être ce qu'ils étaient. Et par ailleurs, tout le monde peut voir Al Jazeera, parce que Al Jazeera, comme vous le savez, est interdit dans plusieurs pays arabes, même en Tunisie, etc. Mais tout le monde a des paraboles, donc tout le monde voit Al Jazeera. Le satellite ne s'arrête pas avec la frontière, comme l'ont appris à leurs dépens aussi les Chinois. Oui, ça a bouleversé, ça a changé complètement le monde arabe, y compris d'ailleurs dans des versions plus radicales. Moi, j'étais avec les équipes du Hezbollah dans les souterrains d'Al-Manar, qui est la chaîne du Hezbollah. Mm-hmm. Donc là, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficile. On est au sud de Beyrouth. Hein. En réalité, je n'ai pas vu les vrais studios, puisqu'il y a plein de studios, et on m'a montré ceux qui voulaient bien me montrer, c'est-à-dire en fait rien, puisque quand Hassan Nasrallah enregistre dans les studios d'Al Jazeera, d'Al-Manar, je ne pense pas que ce soit un des studios que j'ai visité, puisqu'il est menacé d'être, vous savez, c'est le leader du Hezbollah, et il est menacé, les Israéliens le tueront dès qu'ils le trouveraient. Donc je pense qu'il est en lieu sûr. Et il raconte d'ailleurs cette fameuse histoire quand il est interviewé par le patron d'Al Jazeera, là pour le coup, à Beyrouth, qui est assez proche, lui, justement, du Hezbollah, donc ce qui prouve que selon les pays, ça varie. En Syrie, très proche des Syriens, le bureau d'Al Jazeera, à Beyrouth, très proche du Hezbollah. En Palestine, plutôt proche du Fatah, étrangement.
Vous avez enquêté en Cisjordanie,
mm-hmm. Parce que le mec est plutôt nationaliste arabe, disons, pour aller vite, alors que, à Gaza, il est plutôt Hamas. Et alors, le type d'Al Jazeera qui interviewe Hassan Nasrallah, donc le patron du Hezbollah, dans un lieu tenu secret, on le mène non seulement les yeux bandés, mais aussi dans un bus blind bus, c'est-à-dire un bus où les vitres sont fermées. Donc il ne sait pas où il va, etc. Bon, il arrive dans le studio, il interviewe Hassan Nasrallah et lui dit « Où est-ce qu'on est ? Puisque je suis venu avec les yeux bandés. » Et Hassan Nasrallah lui répond « Moi aussi.
» Écoutez, il y a un aspect que vous abordez dans votre livre qui intéressera beaucoup, parce que vraiment c'est un livre très hétéroclite, là où vous abordez différents thèmes d'une brûlante actualité. Mais ceux qui s'intéressent à la question économique, il y a quelque chose qui est très très frappant. On comprend en lisant votre enquête que le moteur du modèle culturel mainstream est un capitalisme que vous qualifiez de capitalisme cool et du hip-hop. Et c'est une forme de capitalisme qui pragmatique, qui contraste grandement avec le capitalisme néolibéral entre guillemets impitoyable, qui est très décrié aujourd'hui et qui on a imputé tous les maux de la dernière crise économique. Est-ce qu'on est en train d'entrer? Est-ce qu'il y a un nouveau capitalisme qui est en train d'émerger avec cette culture mainstream? Parce qu'on a l'impression que les données sont totalement différentes par rapport au capitalisme à la classique, la Ford, le capitalisme traditionnel qu'on a connu ces dernières décades.
Alors je répondrai, c'est assez complexe. D'abord, je ne suis pas économiste, donc les choses soient claires, je veux pas du tout prétendre connaître le détail, notamment de la financiarisation de l'économie, qui est très centrale dans ce débat. Moi, de ce que j'en ai compris, alors là, on parlait essentiellement des États-Unis, enfin encore que ça concerne aussi Reliance, Rotana, enfin des grands groupes, qui sont d'ailleurs très liés aux Américains, hein, dans plein de manières. Hein. Rotana, par exemple, Murdoch est au capital de Rotana, et le leader, le patron de Rotana, qui est le prince Al-Walid, saoudien, est leader, et actionnaire de Disney, de News Corp, des parcs Euro Disney, il possède les Four Seasons, etc. Il me semble que, de manière macro, en tout cas, au niveau des compagnies, au niveau multinational, c'est essentiellement du capitalisme, c'est la financiarisation de l'économie. Donc on est classiquement, justement, dans ce que on peut décrier, qui a été très critiqué. Vous avez des fonds d'investissement très nombreux qui détiennent aujourd'hui la plupart de ces majors, de ces studios et de ces grands labels. Vous avez dans les grands groupes médias, vous avez des fonds de pension, vous avez des LBO, etc., etc. Donc on est dans le système classique capitaliste. Par contre, en leur sein, il est vrai que le fonctionnement de ces industries créatives sont un peu atypiques. Et à nouveau pour une raison qui est qu'on ne fabrique pas des boîtes de petits pois. On ne fabrique pas du Coca-Cola. On fabrique des produits culturels qui, même s'ils sont des produits, ils sont de la culture. Et ce qui nécessite tout ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir, bah, la créativité, c'est suivre des égos, c'est des économies particulières, c'est un star system, même si aujourd'hui les choses sont beaucoup plus complexes. Tout passe par des agences de talent, tout passe... Au fond, les studios, pour prendre le système hollywoodien, aujourd'hui, les studios qui appartiennent clairement à cette économie financiarisée, ce sont des banques. C'est comme ça qu'il faut comprendre Hollywood. C'est plus du tout le système des années 30, des années 40, qui était le système des vieux studios, l'âge d'or des studios, où tout le monde était salarié du début à la fin de votre carrière, enfin en tout cas du début à la fin de tous les corps de métier, les écrivains, les acteurs, les réalisateurs. Ça a pu varier selon les époques, de moins en moins quand on va vers les années 40, mais ce système était celui-là. Aujourd'hui, les studios font plus ça du tout. C'est plus du tout ce système. Ce sont des banques qui vont... en amont, prêter de l'argent, en aval, récupérer le capital le plus précieux des studios, à savoir le copyright sur les produits et la capacité à faire du versionning, c'est-à-dire à décliner ce produit, ce capital, en multiples produits, c'est-à-dire un film, mais aussi une émission de télé, aussi une attraction dans un parc, un jeu vidéo, etc., etc. Et entre les deux, vous avez en fait un système qui va décider... C'est lui qui va garder tout ce qu'on appelle les green lights. On le dit même green light en français. Donc ici, peut-être qu'on dit les feux verts. Mais en France, on dit les green lights. C'est-à-dire le studio qui est la banque va créer... Alors, il y a trois systèmes pour aller vite. Où le studio va créer à 100% une société spécialement dédiée à la création d'un film. Soit elle utilise une specialized unit, c'est-à-dire ces unités spécialisées au sein des studios. Typiquement, Miramax l'a été à une époque, Pixar l'est aujourd'hui, Focus Features l'est chez Universal, etc. Soit elle va dealer avec une maison indépendante qui a avec le studio ce qu'on appelle un first look deal, c'est-à-dire un deal qui lui permet, qui oblige cette maison d'indépendante, qui donc en a une aide financière très importante, elle va être obligée de proposer tous les projets qu'elle crée au studio. Le studio a le first look deal, c'est-à-dire qu'il peut accepter ou refuser ce projet. S'il l'accepte, il le fait. S'il ne l'accepte pas, la maison indépendante est libre d'aller le proposer ailleurs. Donc dans les trois cas, au fond, vous avez des structures indépendantes qui travaillent pour les studios qui les financent, selon des deals multiples, mais c'est toujours ça qui se passe. Et en bout de course, vous avez des centaines, parfois un millier de PME-PMI qui travaillent pour la major. C'est d'ailleurs une des choses qui a le plus énervé les critiques de cinéma français, qui parfois ont très mal vécu ce livre, parce que je suis venu détruire à tout jamais leur grande théorie, qui est de dire les studios sont les méchants, les indépendants sont les gentils. Et ils vous expliquent à longueur de page, dans les Inrecuptibles, dans Télérama, que vous avez les gentils, qui sont les indépendants, et alors on vous interviewe Jim Jarmusch, on vous interviewe qui vous voulez, en vous expliquant en longueur de colonne qui sont la critique du système, qui sont contre le système, etc., etc. Et puis je me souviens d'un article comme ça dans Télérama, il y avait 4 pages d'interview de Jim Jarmusch, et puis ça se terminait à la toute fin, toute fin, deux petites lignes en disant Broken Flowers sortira, je ne sais plus quelle date c'était, en septembre, film de 120 minutes, je ne sais plus combien ça durait, un film Focus Features. Focus Features, c'est 100% une média hollywoodienne. Donc l'indépendant, il existe, et je ne veux pas du tout nier le fait que Jim Jarmusch, dont d'ailleurs j'adore les films, n'est pas un indépendant, il est l'esprit de l'indépendant, etc. Sauf que c'est un film de studio. Donc il faut beaucoup relativiser la réalité. En fait, tout le monde est studio et tout le monde est indépendant à Hollywood aujourd'hui parce que, à travers ce système des first look deal, à travers le système des specialized units et des maisons indépendantes, en fait, vous êtes dans un système où tout le monde est imbriqué. Parce que les indépendants ne peuvent pas exister sans l'argent des studios, la distribution, les moyens d'exploitation. Et les studios ne peuvent plus exister sans la créativité que malheureusement, ils n'ont pas. Et que donc ils trouvent chez les indépendants au sens très vaste du terme. Comme tout le monde est en plus lié à des maisons de talent, des agences de talent, tout le monde est lié à des syndicats et tout le monde est lié à des avocats et à des managers qui sont eux-mêmes imbriqués dans tout le système, on voit bien que l'indé, ça n'existe plus. Mais ce n'est pas grave parce que le cinéma indépendant existe d'une certaine manière, même s'il est produit par les studios.
Monsieur Martel, la culture mainstream, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir un nouveau champ de bataille entre nations, voire la Chine, le Brésil, l'Inde, le monde arabe, qui tente de rivaliser avec les États-Unis sur le terrain du grand audimat culturel mondial? Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà en pleine bataille, en pleine guerre, ou est-ce que c'est une vision apocalyptique?
Non, bon, moi j'ai parlé de guerre, la guerre culturelle mondiale, c'est le titre de la deuxième partie du livre. Peut-être que le terme est exagéré, guerre, est-ce qu'il faut dire guerre? On aurait pu dire bataille, on pourrait dire concurrence économique, vous dites ce que vous voulez, mais il est clair que c'est le cas. C'est le cas d'abord parce que les Américains veulent gagner cette bataille de la concurrence économique très fortement. Ils le font d'abord et avant tout, et je pense qu'on les sous-estime, ou plutôt qu'on les surestime si on pense autre chose, ils le font d'abord et avant tout pour de l'argent. Je ne dis pas ça d'ailleurs méchamment, je dis juste parce que c'est la réalité. En fait, ils s'en foutent de promouvoir leurs films. Les Américains, s'ils peuvent promouvoir des films avec des valeurs américaines, ils le font. S'ils ne peuvent pas, ils produisent des films universels qui ont même plus de valeurs américaines, qui ont des valeurs vaguement globalisées, etc. Si même ça, ils n'y arrivent pas à le faire, ils produisent des films locaux. Ils s'en foutent. L'important, c'est que ça rapporte de l'argent. Ça, c'est la première chose. Je ne nie pas qu'il n'y a pas des valeurs aussi. Mais ce n'est pas forcément leur moteur principal. Ce n'est pas l'industrie part dans la guerre comme Bush aurait pu le souhaiter. D'ailleurs, vous savez que Bush a toujours de très mauvais rapports avec Hollywood et les films récents qu'on a pu voir le démontrent assez facilement. Et face à ça, ben, vous avez très clairement, dans cette bataille, des grandes puissances. Hein, vous savez, les principaux acteurs qui luttent contre les États-Unis, ce n'est ni les Français ni les Québécois. Hein. C'est d'abord la Chine, ensuite les pays arabes. Je ne dis pas que vous ne luttez pas, mais mondialement, les grands ennemis, enfin, ceux qui mènent la bataille, c'est d'abord la Chine et ensuite les pays arabes. D'ailleurs, au passage, histoire de vous provoquer jusqu'au bout, moi, en Chine, j'étais plutôt du côté des Américains que du côté des Chinois. Parce que si vous voulez, la censure telle que je l'ai vue, d'abord, c'est une censure qui coûte autant aux Français qu'aux Américains, puisqu'elle interdit quasiment les mêmes... Enfin, les Américains réussissent mieux parce qu'ils sont plus puissants, mais les Français en subissent aussi beaucoup de conséquences, plus modestement parce que nos films sont moins puissants. Et voilà. Et alors, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que cette bataille ou cette guerre se joue aussi effectivement sur la question des valeurs. Quand on parle avec le patron, les patrons des grandes majors chinoises, quand on parle avec les patrons des grandes majors comme Rotana, NBC, ART, les studios du Caire, etc., les studios de Beyrouth, donc dans le monde arabe, à nouveau les Chinois et les Arabes étant les principaux opposants aux États-Unis, ils vous expliquent qu'ils luttent contre Hollywood parce que maintenant, ils ont la population, hein, 1,3 milliard de Chinois, 1,2 milliard d'Indiens, 350 millions d'Arabes, mais qui deviennent 1,5 milliard si vous parlez des musulmans. Donc, il y a la masse critique en termes de population. Vous avez ensuite l'argent. Il est clair que dans le Golfe, en Inde, comme en Chine, il y a l'argent. Troisièmement, vous avez des valeurs. Ils vous disent, nous avons des valeurs, nous voulons les défendre face à Hollywood. Alors moi, je leur ai demandé, c'est quoi vos valeurs? Alors, ils vous disent, eh bien, nous, on veut défendre la famille. Les Indiens disent ça, les Chinois disent ça, les pays arabes encore plus disent ça. On veut défendre un cinéma qui ne soit pas avec trop de sexe, pas trop de violence, qui soit tolérant à l'égard des religions. Et alors, ça m'intéresse beaucoup de les entendre dire ça, mais quand j'étais à la MPAA, que le studio, le lobby des studios hollywoodiens, quand je suis chez Disney, on me dit exactement la même chose. Ce sont les mêmes valeurs. Donc il y a une convergence des valeurs, ce qui prouve bien que le débat n'est pas tant que ça un débat de valeurs, mais c'est plutôt du patriotisme économique, pour reprendre la formule célèbre, de Dominique de Villepin.
Comme nous avons encore à peu près une dizaine, une quinzaine de minutes, le lecteur québécois vous reprochera de ne vous être pas intéressé à la spécificité culturelle du Québec. Les pays francophones, à l'exception de la Belgique, ne sont pas beaucoup traités. Pourquoi est-ce que vous avez préféré vous concentrer sur ce qu'on appelle les nations, les puissances émergentes? La francophonie, c'est quelque chose, c'est pas votre tasse de thé, c'est quelque chose qui ne vous...
Alors, vous savez, il y a les gens des mangas qui m'ont dit les mangas n'ont qu'une page dans votre livre. Il y a les Russes qui m'ont dit, enfin, et sérieusement, les Russes ne sont pas présents dans le livre. Il y a beaucoup d'Africains qui considèrent que je n'ai fait que le Cameroun et je parle un peu du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Bon, c'est pas ça. Il y a les Français surtout qui considèrent que je parle pas assez de la France et ils m'en veulent beaucoup. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je me suis intéressé au Canada pour une chose que je suivais, qui était Ubisoft, donc sur le jeu vidéo, parce qu'en plus c'était des Français installés ailleurs. Bon, j'étais m'intéressais aussi à Activision, à Blizzard, c'est-à-dire les grands studios, et encore je parle assez peu globalement du jeu vidéo. Bon, je reconnais tout ça. Il se trouve que ayant vécu 4 ans aux États-Unis, ayant été un peu pris par mon voyage mondial, c'est vrai que j'ai eu tendance un peu, et c'est probablement une erreur, j'étais fasciné tellement par l'Asie, par l'Amérique latine, par le Moyen-Orient, les pays arabes, que j'ai un peu délaissé l'Europe et délaissé même le Mexique, par exemple. Et le Canada, je suis allé au Mexique parce que je voulais regarder Televisa de près, mais j'y suis allé très peu par rapport même au Brésil ou à beaucoup d'autres pays en Amérique du Sud ou dans d'autres pays du monde. Et c'est vrai que globalement, le Québec était intéressant parce que c'était un bon exemple. Mais alors là, peut-être c'est aussi un problème de français, c'est que de même que j'ai peu parlé de la France, j'avais tellement envie, si vous voulez, de sortir de ce débat. Il faut voir qu'en France, on parle que de la France. Enfin, on est très nombriliste, très ethnocentrique, et que des livres comme ça sont très rares. Enfin, je dis pas ça par et d'ailleurs sont pas forcément très bien compris parce que donc moi j'ai voulu décentrer complètement le regard français en allant ailleurs et revenir au Québec où alors je traite la Belgique parce que c'était intéressant. La Belgique, ça a échoué donc, dans mon exemple. Non, mais ça a échoué puisque vous savez, ça n'existe plus pratiquement la Belgique. Donc, je plaisante, mais j'ai eu l'impression d'être à Beyrouth, si vous voulez, quand j'étais à Bruxelles, parce que on me parlait plus de guerre. Quand vous visitez la RTBF et vous avez la VRT en face, c'est dans le même bâtiment, donc la télévision flamande et la télévision wallonne, et bien vous avez une espèce de mur de Berlin entre les deux et ils ne communiquent pas. Si vous allez demander ce qu'on nous racontait, si vous allez demander une information à l'hôtesse d'accueil de la VRT, elle vous dit non, il faut aller en face. Si vous cherchez la RTBF, moi je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai accompagné un responsable de la VRT à la RTBF, il n'était jamais allé. Alors ils regardaient, ils testaient la nourriture pour savoir si c'était mieux ou moins bien, les fauteuils, la machine à café, les studios, est-ce qu'ils étaient plus beaux. Alors je vous rassure, pour la nourriture, la RTBF, les francophones, avaient gagné. Pour la machine à café, on ne sait pas. Et pour ce qui est de la beauté des studios, il paraît que la VRT, c'était mieux.
Une de mes dernières questions avant de céder la parole à notre auditoire. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que lorsqu'on lit votre livre, on s'aperçoit que le modèle culturel mainstream, vous nous avez bien expliqué qu'il y a cette dimension du métissage, mais justement cette dimension du métissage est un plus pour les autres nations. À titre d'exemple, la force de ce qu'on appelle les telenovelas, qui sont en train de pénétrer aux États-Unis par des chaînes qui sont totalement hispaniques, à des heures et qui font des audiences très fortes, parce qu'il y a une 40, je sais, la population latino-américaine, 44. L'Espagne s'y met avec la radio-télévision espagnola, qui est en train de diffuser un téléfeuilleton qui a eu un immense succès en Espagne sur la guerre civile et qui a commencé à le diffuser cet automne aux États-Unis. Donc, cette espèce de melting pot américain est aussi un marché lucratif, assez intéressant pour
certains pays. Là, on a un bon exemple, c'est très juste ce que vous dites, on a un très bon exemple de bataille culturelle très très violente, qui est d'ailleurs pas nouvelle, puisque Ténovela, ce n'est pas un phénomène récent, qui se joue... alors, qui s'est beaucoup joué à l'époque avec Cuba et avec le Venezuela, qui tous les deux ont sombré complètement pour des raisons d'ailleurs politiques et d'incapacité à avoir des créateurs. Chavez a complètement tué le système de création de telenovelas au Venezuela. Et quand j'étais à Caracas, je me suis aperçu du désastre que c'était en matière culturelle et en matière aussi de télévision libre, à part Télésour, qui est le Al Jazeera, la télé Chavez, si on peut dire. Donc la bataille se joue aujourd'hui essentiellement entre des grands acteurs sud-américains ou latinos, qui sont TV Globo au Brésil, Telefe en Argentine, Televisa au Mexique, très puissant Televisa, et d'autres en Colombie et un peu ailleurs, mais pas beaucoup, et les télévisions latinos aux États-Unis, essentiellement Telemundo, qui appartient, si je ne me trompe pas, à NBC Universal, ou à Viacom, je crois, à NBC Universal, et puis Univision, qui est l'autre géant latino aux États-Unis. Et en fait, donc, alors ça se passe essentiellement à Miami, la bataille, puisque, un peu à Los Angeles, mais enfin dans les deux grandes villes latino qui sont les capitales de l'entertainment et du divertissement, disons, aux États-Unis, pour l'Amérique latine. Et donc, en réalité, vous avez des associations. Donc, par exemple, Televisa a travaillé avec Univision. Donc, du coup, évidemment, Telemundo a travaillé avec TV Azteca, l'autre télévision mexicaine, pour concurrencer. Mais a fait aussi une bataille juridique très forte qui est montée très haut dans la justice américaine pour arriver à interdire le monopole de Televisa dans l'association avec Univision, ce qui lui a permis d'obtenir un certain nombre de rachats possibles de telenovelas pour les chaînes donc de Telemundo, avec donc des batailles très violentes qui se jouent à l'exportation, puisque toutes ces chaînes produisent quand même beaucoup de telenovelas, par exemple TV Globo au Brésil, très puissant, vont les exporter dans les autres pays, souvent d'ailleurs retraduites en espagnol local ou évidemment en portugais lorsqu'il s'agit du Brésil, et vont essayer de les exporter en Espagne, au Portugal, mais surtout dans plein d'autres pays, notamment un truc incroyable, c'est la passion pour les telenovelas en Russie, en Roumanie, en République tchèque, etc., certains pays d'Afrique, etc. Alors les explications de ces succès et en même temps de ces tensions sont innombrables, très complexes. J'essaie d'analyser ça comme je peux. J'ai visité les télévisions qui produisent des telenovelas dans les 6 pays clés d'Amérique latine. Je les ai retrouvées en Espagne, retrouvées en Roumanie où je vivais pendant 2 ans, à Prague. Et bon, au fond, d'une part, il y a la question financière, un peu la même raison que Bollywood. Au fond, beaucoup de pays pauvres, entre guillemets, achètent des telenovelas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des séries télé américaines. C'est pour ça aussi que longtemps, ils ont acheté du Bollywood plutôt que du Hollywood, parce que ça coûtait moins cher. Aujourd'hui, Bollywood veut faire payer plus cher ses films, donc il y a des problèmes. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est qu'il y a des convergences de valeurs. Pour le coup, dans la telenovela, mais c'est vrai aussi d'ailleurs des dramas coréens ou japonais ou des feuilletons du Ramadan, vous retrouvez dans ces feuilletons télévisés des valeurs du point de vue de la famille, par exemple, qui vont plaire en Afrique davantage que les séries comme Desperate Housewives, pour aller vite, ou Glick, ou on pourrait citer d'autres séries plus modernes, disons, et qui vont plus effrayer un public plus traditionnel ou classique. Et là, la telenovela, pour ça, c'est classique. Enfin, même si vous ouvrez des placards et vous trouvez, il y a toujours des maîtresses derrière les placards, et puis toujours une mama, vous savez, dans le grand escalier de la telenovela, qui crie « Oh, mi adios !» Je ne parle pas espagnol, donc je ne veux pas... « Dios mio !» Voilà, je me disais bien que c'était à l'envers. Et enfin bref, il y a ça, parce que je l'ai vu souvent dans ces films-là. Et dans les séries coréennes aussi, vous avez la beauté de le couple, l'amour éternel, etc. Les Coréens sont très bons pour ça, avec des filles magnifiques, des garçons très beaux avec leurs cheveux à la coréenne, paraît-il, ça s'appelle. Et donc, du coup, ça peut plaire à un certain nombre de pays africains ou au Moyen-Orient. Gros succès des séries coréennes, par exemple, dans toute la zone asiatique, c'est-à-dire comme l'Iran, même au Liban, en Irak, etc., donc en Afghanistan. Bon. Et donc voilà, donc moi j'essaye de suivre ça, c'est très compliqué, hein. Je ne prétends pas avoir fait œuvre définitive, parce que chacun de ces sujets est immense, et il bouge tout le temps, donc c'est aussi ça la difficulté de ce genre de livre. En 5 ans d'enquête, les choses avaient changé, des gens étaient morts, des séries avaient changé, vous voyez, donc vous êtes... Mais je trouvais que c'était intéressant de le faire plus comme un livre journalistique, poursuivre cette aventure, enfin, formidable, et le raconter. Vous sur la couverture, les Inrecuptibles ont écrit une véritable super production journalistique. Il y avait un peu de ce côté-là qui me fascinait.
Absolument,
de faire
c'est
ça.
Un récit haletant qui est très très captivant et que j'invite tout le monde à lire. Avant de passer aux questions, j'ai une dernière question. Est-ce que, selon vous, la culture mainstream augure une nouvelle révolution culturelle mondiale? Combien une révolution?
Si c'est de dire qu'il y a une culture de masse très mondialisée qui concerne tous les pays, que beaucoup de gens voient, c'est pas un phénomène nouveau. Hollywood dans les années 20, ça arrivait à parler à beaucoup de monde dans le monde. Le jazz, ça a pas pénétré partout le jazz, mais ça a pénétré quand même dans beaucoup d'endroits très fortement. Mes parents, par exemple, dans un petit village du sud de la France, qui sont des paysans, ont adoré le jazz et ne s'intéressaient plus qu'au jazz quand ils avaient 20 ans. Ce qui est très étrange, parce que pourquoi des petits paysans blancs d'un petit village du sud de la France ont été à ce point en 42, 44, totalement passionnés par le jazz. C'est quand même un truc incroyable qui s'est passé. Et on retrouve ça aujourd'hui avec mon neveu, je personnalise, pardon, mais c'est aussi ça la culture, qui a 12 ans et qui connaît, l'autre fois, moi je parlais des groupes de rap et je lui disais qu'il voulait voir, et il les connaissait tous par cœur, beaucoup mieux que moi, alors qu'il a 12 ans et qu'il connaît tous les groupes de rap américains par cœur. Donc il y a des choses incroyables qui se passent avec cette culture américaine. Mais c'est pas nouveau fondamentalement. Ce qui est nouveau, je pense, et c'est ça le sujet du livre, c'est comment, d'abord, il y a une volonté de puissance plus forte encore qu'avant, parce qu'avant ça intéressait Hollywood, ça rapportait de l'argent, mais c'était aussi des valeurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est que le système américain est un marché mature, qui ne progresse plus. Compte tenu des fonds de pension, des fonds d'investissement que j'ai décrit tout à l'heure, ces industries doivent progresser en chiffre d'affaires. Et donc, elles doivent s'ouvrir nécessairement vers les pays émergents. Et l'autre nouveauté, c'est que les pays émergents eux-mêmes, d'abord, ce sont les pays émergents qui ont la plupart du temps des démographies extrêmement jeunes. Si vous prenez l'Indonésie, si vous prenez l'Inde, si vous prenez le Brésil, les pays arabes, vous êtes avec des démographies incroyables, de populations qui sont de manière très importante avec des gens de moins de 18 ans. Les consommateurs d'entertainment, de culture mainstream, c'est d'abord et avant tout des jeunes. Et donc, il y a déjà une demande incroyable, mais même en Iran, de produits de masse. Et donc, si les Iraniens ne leur donnent pas, ils iront au piratage. De toute façon, les gens vont vouloir voir ces films. Vous allez à Beyrouth, vous allez dans les camps de Sabra et Shatila, qui ne sont quand même pas les endroits les plus pro-américains au monde, vous descendez, ce que j'ai décrit dans le livre, dans les sous-sols de ces magasins, vous n'avez que des films américains, tous piratés. À l'infini, vous avez tout. Vous avez les derniers blockbusters américains qui datent d'il y a une semaine. Ils les ont téléchargés sur Internet, ils les impriment, ils les enregistrent sur des DVD pirates et ils les vendent tout de suite. Donc, vous trouvez tout, y compris les films les plus censurés et les plus d'ailleurs pro-israéliens qu'on puisse imaginer, vous les trouvez aussi à Sabra et Shatila. Et vous les trouvez dans le quartier du Hezbollah, au sud de Liban également, au sud de Beyrouth également. Donc, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'émergence des pays émergents, leur besoin de culture et d'entertainment, de culture mainstream, qui va s'accroître énormément, y compris en Iran, y compris en Arabie Saoudite, et en même temps, leur volonté de produire eux-mêmes une culture puissante, mainstream, pour affronter le reste du monde. Donc voilà un peu le sujet du livre. C'est à la fois fascinant, à la fois très complexe, probablement imparfait parce que mon enquête est tellement gigantesque, je veux dire, le sujet, hein, le nombre de pays, mais aussi à la fois le cinéma, la musique, je traite le jeu vidéo, je traite un peu le manga, très peu, pas assez, l'édition, la musique, la télévision, l'information, CNN, etc., versus Al Jazeera et tout ça, que forcément c'est parfois un peu impressionniste. C'est d'ailleurs, si on voulait faire une critique au livre, on pourrait dire qu'il est très journaliste. Et je l'assume puisque j'avais fait ma thèse, elle faisait 700 pages, maintenant je me repose avec un livre un peu plus je dirais mainstream pour le coup et qui n'a été fait que dans 30 pays. Donc voilà.
Bien, merci beaucoup. On va passer à la période des questions. Si vous avez des questions, je vous prierai de les poser au micro.
Donc, vous avez parlé de la culture... La culture américaine, la sous-culture, la contre-culture, la critique, etc. Et je voudrais vous poser une question assez simple, c'est la culture geek dans tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Parce que ça, la culture geek, c'est quelque chose qui est en train de devenir un point central dans la sorte de contre-culture américaine. Est-ce qu'elle entre elle-même dans le mainstream ou elle peut être considérée simplement comme une contre-culture, les jeunes qui veulent prendre le pouvoir ou quelque chose comme ça?
Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la culture geek, enfin je sais pas si tout le monde sait, il s'agit, on peut l'appeler la culture nerd aussi si on veut, c'est pas exactement la même, je sais. Vous avez dû lire comme moi l'article de Wired ce mois-ci sur la culture geek justement, qui fait la une de Wired. Donc c'est la culture, enfin c'est la culture des, vous savez, ces garçons, c'est souvent des garçons d'ailleurs, à lunettes, pas vous, hein, parce que vous avez des lunettes chic, vous avez des lunettes cool, c'est pas des lunettes geek ça. Non, c'est les grosses lunettes d'informaticiens qui toute la nuit font de l'informatique et du coup en fait sont sur internet, etc. Et d'ailleurs j'en ai autour de moi, donc je les connais bien, c'est une espèce en voie, non pas de disparition, mais de progression, et voilà, ils sont plutôt sympathiques les geeks. Alors, l'article auquel je faisais référence pour répondre à votre question de Wired était un article qui est assez connu, qui avait été fait il y a 25 ans, qui avait montré que la culture geek allait devenir mainstream. Et l'article qui a lieu ce mois-ci montre que tous les geeks sont devenus Bill Gates, Steve Jobs, etc. C'est-à-dire les grands patrons des, enfin, on peut dire du mainstream, après on l'appelle comme on veut, mais enfin, c'est ça l'idée. Et je crois profondément, en effet, que... Alors, la culture geek, c'est quand même une contre-culture, objectivement, et c'est quand même... même s'il y a quand même des millions de gens qui partagent ça au Japon, ailleurs dans le monde, en Inde, en Chine, des gens qui sont capables de rentrer dans les ordinateurs de la CIA, qui sont capables de détourner la page Facebook de Nicolas Sarkozy, ça c'est bien, qui sont capables pour dire que... Enfin, je ne vais pas dire ce qu'il faut dire dessus, et etc. Donc, en réalité, vous avez une culture effectivement très, très innovante, etc., qui est valorisée aux États-Unis. Je ne dis pas qu'elle est toujours autorisée. Il y a aussi des geeks qu'on met en prison parce qu'ils ont été des hackers. Mais enfin, en Chine, ils passent tous en prison tout de suite. Enfin, ou en tout cas, ils sont tous surveillés. Donc, c'est aussi ça la force des États-Unis, c'est d'autoriser. C'est-à-dire, il y a un truc mais qu'on voit ici parce qu'au fond, vous êtes... plus proche, malgré tout, avec tout ce qu'on peut dire des États-Unis ici, on est quand même... En fin de compte, on préfère les États-Unis aux Chinois, quand vous les regardez de près. Je ne parle pas des gens, je parle du système. Hein. Et ici, dans la rue, j'étais sur rue Sainte-Catherine tout à l'heure, vous avez des gens complètement starbés, qui faisaient de la musique complètement... starbé, je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez, mais enfin, ça veut dire fou en français. Enfin, ça doit être du verlan, je ne suis pas bien sûr, ça doit être du verlan. Je ne saurais pas l'histoire verlan, donc c'est écrit à l'envers. Starbé, ça serait Bestar. Je ne connais pas l'étymologie de Starbear. Enfin bref, complètement fou et qui sont autorisés, etc. Les policiers surveillent un peu, il y en a un qui a été arrêté. Enfin bref. Et ça, c'est autorisé quand même dans les systèmes démocratiques. Et ça permet aux geeks, au fond, d'être quand même, de pouvoir faire ces trucs de folie. Et il se trouve que c'est la folie qui, très souvent, permet de finir mainstream, enfin, et de réussir. Dire, les mecs quand même qui ont fait Facebook, ils n'étaient pas super normaux, quoi. Enfin, Bill Gates, il est sympathique, mais il est un peu starbé pour le coup, etc., etc. Et Steve Jobs encore plus. Donc voilà. Donc pour répondre à votre question, moi je suis absolument persuadé que dans le système américain, il y a cette force qui existe aussi au Canada et en France. Hein, pour ça, au moins on est similaire, qui est la capacité à écouter ces gens-là et malgré tout à leur donner leur chance dans un système et de pas les mettre en prison tout de suite. Enfin, malgré tout, en Arabie Saoudite, en Iran, en Chine, dans quelques autres pays, au Venezuela, ils finissent en prison. Quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres
questions ? Ou alors ils deviennent agents spéciaux du régime.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
N'ayez pas peur.
Ah. Monsieur ? Peut-être aller au micro ?
C'est en fait le fait d'aller au micro qui fait peur, je pense. Ouais. C'est fatigant, il faut se lever, il faut marcher.
Il faut se prononcer.
Voilà.
Alors, je voudrais vous poser peut-être deux ou trois petites observations. Prague, c'est pas là, c'est pas en Roumanie, c'est Bucarest. Là.
J'ai vécu deux ans à Bucarest, donc je vois à peu près la différence. Non, peut-être que, non, dans que... une formule rapide.
Non, mais c'est
OK. Non, mais rassurez-vous, j'ai été à l'ambassade de France à Bucarest, donc je vois à peu près la différence. Tous les week-ends, j'allais à Yougoslavie pendant la guerre et je faisais quelques petits séjours à Prague. Parce que pour nous, Prague, en Tchécoslovaquie à l'époque, enfin, c'était déjà pratiquement plus la Tchécoslovaquie, c'était la liberté par rapport à Bucarest. Parce que c'était un pays très... On pouvait acheter des choses dans les magasins, alors qu'à Bucarest, il y en avait très peu.
Alors, une autre chose. Comment expliquer la relative imperméabilité de la culture américaine aux autres cultures extérieure. Je lisais dans Le Monde hier qu'en 10 ans, les Français ont traduit à peu près 15 000 ouvrages venant des États-Unis. L'inverse, c'est 650 à peu près. Et l'auteur le plus connu aux États-Unis actuellement, c'est Albert Camus, l'auteur français. On ne peut pas dire que ça soit tout à fait, qu'il soit tout à fait à la page. Alors, avez-vous une idée de qu'est-ce qui explique cette espèce d'imperméabilité? Et d'autre part, est-ce qu'il y a 10-15 ans, les conducteurs automobiles pensaient construire une auto mondiale en disant on va construire une auto qu'on va pouvoir vendre partout? Ford a eu cette idée-là, d'autres. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Est-ce qu'on n'est pas dans le même système au niveau de la culture, dans le sens où le modèle américain, finalement, il ne va pas se répandre tel qu'on l'avait pensé, formaté, valable pour tout le monde, partout? Voilà.
Alors, reprenons dans l'ordre. Peut-être la deuxième question qui est plus... Bon, je ne connaissais pas cette histoire d'automobile, donc vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Même si je peux imaginer très bien que General Motors ou Ford aient voulu le faire. Si vous voulez, moi j'ai lu, peut-être vous aussi, le livre d'Emmanuel Todd sur le déclin américain, quoi, et qui est le déclin empire américain, etc. Il y a quelques-uns comme ça qui nous expliquent chaque jour que l'Amérique c'est fini. Comme il avait annoncé, paraît-il, la fin de l'URSS, il annonce maintenant la fin des États-Unis. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas vu ça sur le terrain. Je me trompe peut-être, mais j'ai vu plutôt un pays puissant qui, malgré tout, arrivait, enfin, ce n'est pas de savoir si ça va arriver ou pas, déjà aujourd'hui, arrivait à peu près à parler à tout le monde dans 120 pays. Alors, il y a des endroits où ils n'y arrivent pas trop, il y a des endroits où ils y arrivent mieux, mais enfin, ils arrivent à peu près à le faire dans 120 pays, ce que les Français, ni d'ailleurs personne d'autre, même pas les Chinois, même pas les Indiens, qui n'ont toujours pas fait un blockbuster mondial, n'arrivent à faire. Je parle là toujours de culture mainstream, de culture grand public, de culture de masse. Si vous me parlez de la danse contemporaine, le débat est très différent. Vous avez, heureusement, d'autres pays qui, en Europe, par exemple, ça circule beaucoup au niveau de l'élite, au niveau des artistes, au niveau des intellectuels, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais quand vous parlez de culture de masse, et que vous parlez aux jeunes, vous parlez au grand public, il y a souvent pas grand-chose. Donc, voilà. Alors, votre première question est beaucoup plus intéressante. Enfin, l'autre aussi, pardon, mais... Non, mais elle est plus complexe pour moi d'y répondre parce que c'est un peu un mystère, en réalité, pour moi. Je ne suis pas totalement certain des chiffres que vous avancez. Non pas que je les conteste les vôtres, mais je contesterai ceux du Monde parce que c'est des chiffres qui sont toujours répétés, qui viennent du bouquin Schifrin, l'édition sans éditeur. Et je n'en ai pas la preuve formelle, mais d'abord, je doute un peu qu'il soit totalement vrai. Mais sur la proportion, je pense qu'ils le sont. Donc, ne pinaillons pas sur le détail. La question, c'est pourquoi les Américains traduisent peu, alors que nous, Français, on traduit beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, parce que, même si je vois bien pourquoi vous la posez, et vous avez raison de le faire... Oui, c'est une question. La France traduit beaucoup de livres, mais à 60%, ce sont des livres américains. Bon, ça relativise quand même déjà beaucoup les choses. La deuxième chose, c'est que elle traduit beaucoup en nombre. Mais les Américains n'ont jamais été très forts et n'ont jamais beaucoup voulu, à part aux presses universitaires, qui jouent à peu près pour 4%, 3% des ventes, même si c'est 10% des titres, ce qui est pas mal, mais c'est très faible en vente. Ils ont toujours cherché le nombre. Donc si on regarde les livres qui se vendent, peut-être qu'en France, il y en a 50. Et je suis sûr que ces 50, ils y sont aux États-Unis. C'est-à-dire que les 50 livres qui vont se vendre existent, les milliers de livres. Parce que c'est bien, moi je suis évidemment comme vous d'accord pour l'idée que c'est formidable que la France traduise. Enfin, si un livre est traduit mais qu'il sort à 400 exemplaires, ça ne change pas grand-chose. Si le débat final est de savoir est-ce qu'on lit des livres étrangers, si c'est 400 exemplaires, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à 400 personnes, c'est déjà pas mal. Mais... Mais bon, en plus, voilà. Alors, l'autre point qui me semble être... Oui, bien sûr, oui. Mais qui sont connus dans le monde entier. Philip Roth, il existe partout dans le monde. Il n'y a pas besoin de français pour le traduire. Enfin, c'est bien que les français le traduisent, mais... Français, allemand, espagnol, ont la même aura. Bah écoutez, bon, je vais pas lutter à armes inégales puisque j'ai pas. Bon, d'abord sur Camus, vous dites c'est l'auteur le plus lu aux États-Unis et George Bush, comme vous le savez, l'avait lu et donc tout le monde s'est dit ah George Bush lu vient découvrir, il lisait L'Étranger. C'est sans doute parce que L'Étranger tue un arabe qu'il avait aimé le livre. Mais vous savez, c'est quand même aussi le livre le plus vendu en France. Donc il n'y a pas que les Américains. Bon. Et alors moi je crois que j'ai une explication qui va un peu vous déplaire, mais qui relativise quand même le... Non, moi, si on gagnait sur ça et qu'on était bon, j'applaudirais. Parce que mon premier souci, c'est de défendre la France. J'ai été attaché culturel aux États-Unis et mon travail pendant 4 ans, ça a été de vendre des films américains, de vendre des films français, vous voyez, de vendre de la musique française, etc. Donc, c'est quand même plutôt ça, ma logique. Bon. Quand vous allez dans un quartier latino, quand vous allez dans un quartier chinois, et toutes les minorités y sont, comme vous le savez, et avec des millions de gens, vous vous apercevez qu'ils lisent tous des livres en langue originale. Donc en réalité, les États-Unis, il y a une immense circulation qui se passe de livres innombrables qui sont, vous pouvez trouver des librairies totalement en japonais, totalement en chinois, totalement en coréen, totalement en thaïlandais, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils vont lire les livres, bon, dans la langue originale, parce qu'ils sont eux-mêmes... Donc ça confirme l'hypothèse que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette diversité, paradoxalement, qui est répétitive, mais qui est liée aux minorités. Donc comme c'est ethnocentrique, bah, les Chinois lisent des livres chinois, les Indiens lisent des livres indiens, les Thaïlandais lisent des livres thaïlandais. Vous ne pouvez pas en déduire que ces livres n'existent pas, puisqu'ils y sont. Sauf qu'ils ne sont pas dans les statistiques, puisqu'évidemment, ils ne les traduisent pas, ils les lisent en langue originale. Pour l'espagnol, c'est encore plus vrai. Vous avez un nombre incroyable de livres que les gens lisent en espagnol et qui ne rentrent pas dans vos statistiques, puisque vous n'avez pas besoin de les traduire et qui sont liés aussi aux 40 et quelques millions de latinos vivant aux États-Unis. Ce que nous, on a assez peu. Et nous, de toute façon, on empêche nos arabes de lire les livres en arabe. Donc, si on peut essayer de l'éviter qu'ils le fassent, on fait tout contre ça. Non, mais j'exagère. Non, mais bien sûr que j'exagère. Mais vous comprenez quand même que c'est aussi ça le débat qui a lieu en France. Non, mais on n'est pas dans une réunion électorale, mais ce n'est pas que électorale. C'est que fondamentalement, le système français, il veut bien traduire parce qu'on veut que vous lisiez en français, mais il ne veut pas que vous lisiez en langue originale parce qu'il fait tout pour que vous ne parliez plus votre langue originale. C'est ça le système français, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est très fiers d'afficher nos 1000, mais on ne veut absolument pas que les gens amènent sous le bras la douane, on leur enlève les livres. Non, j'exagère encore, je suis dans la réunion électorale là, mais...
Certains auteurs arabes.
Mais c'est ce que les Français veulent en plus. Ah ben moi j'aimerais bien qu'ils écrivent en arabe parfois. T'as Arben Jeloum ou on peut citer plein de gens, mais sûr. D'ailleurs, il est vrai aussi que beaucoup d'Arabes vivant en France, de seconde génération, ne parlent pas et ne peuvent pas lire en arabe. Donc sur ça, on est d'accord. Mais ça montre aussi quelque chose quand même au passage. Enfin, sans vouloir me faire l'avocat des Américains, vous pouvez très bien être chinois en Chine, chinois en Chine, ça c'est sûr, mais chinois aux États-Unis, parler chinois, personne ne va vous embêter. Et comme vous le savez, il y a plus de restos chinois aux États-Unis que de McDonald's, pour donner un chiffre qui montre quand même ce que c'est. Mais en France, ben, on fait tout pour que vous ne restiez pas... grosso modo, ou vous parlez français très vite et tout va bien, ou alors on ne vous aime pas beaucoup. Quoi. Voilà, c'est quand même ça le système français. Et il me semble que ça se retrouve... Voilà, c'était pour ma manière de répondre à votre question de manière un peu alambiquée. Je pense que c'est une explication du truc. En fait, grosso modo, les Français, ils veulent qu'on traduise parce qu'on veut que vous deveniez français. Donc, dans ce cas-là, tout va bien, c'est très, très bien. Par contre, on ne veut pas forcément exporter les... Voilà, ce serait ma analyse rapide. Ouais. C'est de moins en moins vrai, je pense que là, c'est un changement très fort qui est en train de se passer en France. Vous avez aujourd'hui dans les FNAC, partout, les gamins lisent, les gamins, j'exagère, en tout cas, les gamins de l'élite lisent Harry Potter en anglais et on est de plus en plus un pays qui commence à bien parler anglais et ça va fondamentalement changer les choses en France. Et en plus, il y a une bataille aussi sur la langue. Je ne veux pas polémiquer parce qu'on va vite polémiquer sur ça, mais il y a une bataille en France qui se joue sur la langue entre au fond un camp conservateur qui empêche justement les Arabes d'apprendre l'arabe et au fond les Français de parler anglais, en tout cas des mots anglais, Et puis, il y a une bataille assez fortement menée, notamment par les Français issus de l'immigration, qui, eux, défendent souvent l'anglais comme étant une capacité à avoir plus de mots nouveaux, etc. Et donc, il y a toute cette bataille des conservateurs, parce que c'est ça le débat en France, c'est pour ça qu'il est très compliqué, au fond, à percevoir, je pense, depuis le Québec, c'est que le discours sur la langue, la protection de la langue, est souvent un discours, je dirais, conservateur en France, Académie française, Figaro, etc. Et une partie de la gauche, c'est Martine Aubry qui affiche le Caire et qui est très mal reçue par ces gens-là, alors que des gens comme moi vont défendre beaucoup le fait qu'elle ait utilisé le mot care, d'où le mot mainstream, d'où le fait que nous, on empêche, on se bat contre le ministre de la francophonie qui veut nous interdire d'utiliser buzz, iPod, email, parce que nous, on veut notre email, on veut notre buzz, on veut notre iPad, parce que on ne veut pas de cette France rabougrie, rapetissée, refermée sur elle-même, qui ne veut pas s'ouvrir sur mondialisation, qui passe un peu par des mots anglais. Donc vous voyez, le débat est un peu à front renversé en France par rapport à ce qu'il est ici. Et c'est pour ça que je suis très prudent, mais il faut le comprendre aussi. Je pense que les Français comprennent très mal le combat pour la langue française des Québécois, mais je pense que les Québécois comprennent assez mal aussi le débat tel qu'il est construit en France. Voilà. Moi, je vais publier un article, ça va vraiment vous déplaire, dans quelques jours, dans Le Point, qui s'appelle « Care, Buzz, Mainstream, pourquoi c'est mieux de parler anglais ?» Ça, ça ne va pas vous plaire du tout. Mais c'est une démonstration justement sur le fait qu'on ne veut pas se laisser imposer par la droite, pour aller vite, un peu conservatrice, un certain nombre de mots. Voilà. Avec le mot care, par exemple? Mais vous savez, petit 1, si Martine Aubry avait choisi solidarité, personne n'en aurait parlé en France. Du tout. Bon. Le Caire, c'est devenu un débat national. Mais voilà, ça, c'est un autre débat. Mais le point principal qui est très intéressant, et j'attire votre attention sur ça pour comprendre ce qui se passe réellement. Pourquoi est-ce que des gens utilisent en France les mots anglais? C'est parce que dans un pays où on a quand même une police, un peu de la langue, l'Académie française, tout un tas de choses, qui contrôlent beaucoup, qui veulent contrôler, qui interdisent au fond. Pourquoi le français va mal? Il va mal parce qu'on n'autorise pas la multiplication des mots, tout simplement, même des mots français. On n'utilise pas, on n'accepte pas que les Arabes, entre guillemets, les Français issus d'immigration, utilisent le beurre, la langue des beurres, pardon, le verlan, les mots inversés. Et on essaie d'empêcher ces mots d'émerger. Et face à ça, on a un besoin, une demande très forte de mots, qui est liée aux nouvelles technologies, qui est liée à plein d'autres aspects. Donc il faut ouvrir la langue. Il ne faut pas attendre les 10 ans pour que l'Académie française arrive à la lettre M pour avoir le mot mainstream ou le mot iPod. Les gens veulent ces mots-là. Et ils les veulent parce que c'est la langue du cool. C'est ça le problème de l'américain en France. C'est que c'est la langue du cool. C'est qu'une publicité, elle va... Vous préférez avoir des All-Stars qu'avoir des trois bandes. Vous préférez afficher... Monoprix, c'est une marque ringarde en France. Quand ils ont créé Monop, ils sont devenus hip et cool, etc. Donc c'est ça la réalité de ce pays. Et je ne dis pas ça par provocation ici, mais il faut comprendre ce qui se passe. Et care... Martine Aubry, ça lui a permis d'être à la fois super traditionnel avec ce mot-là, c'est-à-dire au fond, dans l'histoire du Parti Socialiste très classique, de la solidarité, et d'être en même temps ultra moderne avec ce mot-là. Et c'est ça qui a fait que l'expression est devenue un succès épatant. Lisez l'interview qu'elle a faite dans Le Monde 2, c'est une interview remarquable sur le sens, pourquoi elle a pris ce mot, mais en même temps, elle a bien dit qu'elle ne cherchait pas à employer des mots anglais systématiquement, que celui-là avait un sens, que par ailleurs, elle ne restait pas du tout attachée à l'idée que Kerr allait être le cœur de son projet, mais c'était juste un point particulier, etc. Donc c'est un débat qui en France est très chaud, pour le coup. Il est encore plus chaud sans doute ici. Mais il faut comprendre, moi j'aurais pu ne pas le choisir. Enfin franchement, c'est difficile de choisir un titre de livre. Le précédent s'appelait « De la culture en Amérique ». Bon, c'était quand même très français. La plupart de mes titres, le précédent encore, s'appelait « Le rose et le noir ». C'était des titres très français. Dans les deux cas, « Le rose et le noir » en écho au rouge et au noir. Et « De la culture en Amérique », évidemment, en écho de la démocratie en Amérique. Donc voilà, bon, après, on a peut-être tort, enfin, c'est débat très complexe. Je pense que ce qui est vrai, c'est que la France est en train de changer très fortement sur ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie scission. Écoutez la chanson de Diams, par exemple, qui s'appelle « Ma France », qui est une chanson qui m'a opposé très violemment à Alain Finkielkraut, par exemple, parce que lui considère que c'est une chanson ignoble. Bon, si vous écoutez les paroles, c'est paroles très violentes. Hein. Diams, c'est du rap français de très 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 hostile à la France, hein, très hostile à Sarkozy, etc. Mais dans cette chanson Ma France, elle décrit l'utilisation des mots anglais et elle dit qu'elle veut employer SMS, qu'elle veut employer KFC, McDonald's, enfin tous ces trucs-là, plutôt que la France de Laurent Girard et de Sarkozy, pour aller vite. Et ensuite, elle dit aussi des choses très très belles sur la France, enfin que moi je trouve très belles, que Finkielkraut apparemment n'a pas compris, on n'a pas trouvé belles. Mais bon, voilà, c'est des débats très 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 forts, quoi. Et je pense que la France va changer profondément dans les 10-20 années à venir pour une raison très simple. C'est exactement comme les États-Unis ont été totalement bouleversés par la question noire, la France va être totalement changée par la question arabe. Quand vous avez 15% de votre population qui est arabe, ça va tout changer. Ça va changer l'école, ça va changer la culture, ça va changer la politique, ça va changer la représentation, ça va changer l'élite, ça va changer l'ENA, ça va changer Sciences Po. Tout ça est en train de se faire pas à pas. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne sais pas. Moi, juste, je constate ça. Et peut-être que vous en serez très chagrin, enfin, j'en sais rien. Alain Finkielkraut, il en pleure tout le temps. Bon, bah voilà. Marc Fumaroli aussi, Éric Zemmour aussi, Elisabeth Lévy aussi. Ce n'est pas mes amis. Oui, qui en plus est très efficace, quoi, parce que il y a des mots parfois qui sont un peu, pardonnez-moi, mais un peu niais, quoi. Mais courriel, c'est très beau, enfin, ça marche bien. Simplement, enfin, moi, je suis navré de vous le dire, j'ai jamais employé courriel de ma vie, jamais. Même sur ma carte de visite à l'ambassade de France, j'avais mis email, parce que, ben, en fait, on fonctionne comme ça, quoi. Enfin, vous avez l'administration, il y a quelques personnes dans l'administration qui essaient d'imposer courriel. Mais le problème, c'est que quand c'est le Premier ministre qui vous l'impose, ben, vous ne le faites pas. Vous faites exprès, vous gardez votre email, quoi.
Monsieur.
Mais oui, c'est ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ça fait plus chic? Pourquoi ça fait plus cool? C'est ça aussi le débat. Maintenant, à nouveau, moi, je dis ça avec beaucoup de prudence, juste pour terminer en phrase. C'est
que ma soupe a refroidi.
Je trouve le combat mené ici pour la défense de la France un combat époustouflant. Et enfin, je suis enchanté par ce que j'entends, par ce que je vois. Et je comprends ce que c'est ce combat quand on est quelques petits millions par rapport à des centaines de millions. Donc, je comprends ça très bien. Mais si vous voulez, et je comprends même que vous nous fassiez le reproche, nous, de ne pas être les grands défenseurs de la langue française pour lequel vous vous battez. Mais vous savez, c'est toujours la même chose. On vit dans un autre monde aussi, nous. Et on a d'autres débats, d'autres problèmes. Et donc, la question, elle est qu'on est très injuste, peut-être. Et on est très malheureux par rapport à... Et vous êtes très malheureux par rapport à nous, par rapport à ce qu'on fait. Mais donc... Je pense qu'il faut intérioriser ça, il faut que moi je le fasse plus, par exemple. Par exemple, ce que j'ai entendu ici, pas simplement là, mais depuis deux jours, je vais corriger le papier que je vais publier dans Le Point. Non, mais sérieux, il se trouve qu'on m'a demandé de le raccourcir parce qu'il était trop long. Il faisait 12 pages, je crois, on m'en donne 7 ou 8, ce qui est beaucoup déjà, hein, dans Le Point. Et je vais le corriger pour justement peut-être faire apparaître ça mieux. Parce que moi, je crois à la francophonie, mais je ne crois pas en une francophonie qui est strictement protectionniste, ringarde. Et voilà. Je pense qu'il faut une francophonie moderne. Donc voilà, c'est un peu ça le débat. Et en tout cas, moi, je n'ai pas l'intention une seule seconde de parler anglais. C'est-à-dire, je parle anglais quand je suis au Japon, je parle anglais. D'ailleurs, très mal, parce qu'ils parlent encore plus mal anglais que moi, les Japonais. Je parle anglais même quand je suis au Brésil. Mais enfin, avec vous, à Paris, je n'ai pas du tout l'intention de ne pas parler français, quoi. Voilà, on est vraiment les grands défenseurs de la langue française.
Frédéric Martel, ça a été un très grand plaisir de vous
voilà, saluez votre maman hein, quand oui, elle vous fait la soupe.
Je vais aller manger la soupe.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.